Europe Soir Weekend,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus dans votre grand journal avec l'info, l'analyse, le débat d'idées et ce soir un studio particulier à l'occasion des internationaux de tennis. Nous sommes en duplex de Roland-Garros, au plus près des services gagnants ou des coups durs, diront certains, avec la déception de l'après-midi. En l'occurrence, Roger Federer qui déclare forfait après un match gagné cette nuit mais au forceps à 40 ans. Le numéro 1, l'ancien numéro 1 mondial tentait un retour, vous le savez, au plus haut niveau après une double opération du genou l'an passé. On en parlera évidemment dans ce 18-20 et dans le journal dans un instant. À 18h15, je reçois ce soir Raïm Korsia. Il a été réélu ce matin grand rabbin de France. Une nouvelle mission pour 7 ans. Il nous décrit sa France et son amour de la République. 19h15, notre invité est député La République En Marche des Yvelines, porte-parole de la majorité à l'Assemblée nationale. Aurore Berger, que ressent-elle et comment sent-elle le pays à 15 jours du premier tour des régionales? Question que je poserai également à nos grandes voix ce soir. Laetitia Crepa, Frédéric Dabi et Amine El-Khatmi. 19h30 sur Europe 1. Dans nos essentiels, l'écrivain et critique littéraire Frédéric Becbédé. Il publie sa bibliothèque de survie, des livres de résistance avec une part d'esprit français. Il sera le week-end prochain sur la scène du Bataclan pour son DJ set littéraire. Ses lectures accompagnées de musique et mixées en direct. Bataclan donc, les 11 et 12 juin, 19h40 évidemment, depuis Roland-Garros, service Pioline, c'est toute l'actualité du tennis, le début de ses huitièmes de finale et l'entrée dans la deuxième phase du tournoi, les insolites, les coulisses aussi avec notre consultant pour la quinzaine, Cédric Pioline, notre spécialiste tennis à Europe 1, Karine Boulou et Johanna Chabas qui fouille en coulisses justement. En attendant, voici l'info avec vous, Fabienne Lemoyle, bonsoir.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Car il est exactement 18h au carillon d'Europe 1, merci de nous être fidèles. Ce sont les grands titres du journal.
C'est difficile de se dire que Federer annonce qu'il ne jouera pas ce huitième de finale. C'est évidemment une perte pour le tournoi. Bon oui, c'est un coup dur.
Vous le disiez, Wendy, Roger Federer jette l'éponge après avoir pourtant bataillé hier soir plus de 3h30 sur le central et s'être qualifié pour les huitièmes de finale à Roland-Garros. Corinne Boulou va nous expliquer pourquoi.
Bruno Le Maire est confiant, il l'était sur Europe 1 ce matin également. L'économie redémarre déjà, voilà ce que dit le ministre au grand rendez-vous, alors que dans 3 jours, les restaurants ouvrent en intérieur et que le couvre-feu passera à 23h.
Et puis va-t-on vers la fin du masque dehors? Il va rester obligatoire au moins jusqu'à fin juin, dit le ministre de la Santé.
Voilà le seul maire de cette édition jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on commence avec ce coup de théâtre, Fabienne. Donc cet après-midi, à Roland-Garros, Roger Federer quitte le tournoi.
Oui, le champion suisse a déclaré forfait. C'est vrai, Corinne Boulou, on en parlait déjà ce midi, que cette décision, on la pressentait après les déclarations de Roger Federer cette nuit, à la fin de son match marathon, qui lui avait pourtant permis de se qualifier pour les huitièmes de finale.
Oui, le forfait de Roger Federer a été officialisé, Fabienne, peu avant 16h30. C'est vrai que les paroles du Suisse la nuit dernière laissaient penser qu'il ne poursuivrait pas l'aventure. Il l'avait dit avant le tournoi, il n'était pas venu pour gagner Roland-Garros, mais pour se jauger avant de disputer Wimbledon, son jardin anglais, savoir physiquement où il en était. Alors si son bras de fer hier soir lui a livré des enseignements, le premier d'entre eux, c'est qu'à bientôt 40 ans, il n'était pas dans la capacité d'enchaîner des matchs à haute intensité. Après 2 opérations, dit-il dans un communiqué, et plus d'1 an de rééducation, il est important d'écouter son corps et de ne pas aller trop vite dans le retour à la compétition, même s'il se dit ravi d'avoir retrouvé le terrain. C'est donc sur un court vide, privé de public hier soir, que Roger Federer a fait ses adieux à cette édition, sans savoir si nous le reverrons d'ailleurs ici. Le regard de notre consultant Cédric Pioline sur ce forfait de Roger Federer.
Peut-être que ça a été sa dernière participation, effectivement, en se disant qu'il a 40 ans cette année. Évidemment, chaque édition, chaque année qui passe, le rapproche de la fin. Il avait besoin de revenir à la compétition, c'est certain. Il n'y a que lui qui peut savoir avec son équipe où est-ce qu'il en est justement physiquement par rapport à l'opération, par rapport à la possibilité d'enchaîner les matchs. Surtout, on sait que la terre battue est plus exigeante d'une certaine manière que le gazon. J'espère vraiment que Roland-Garros n'a pas été une préparation pour Wimbledon.
C'est la cinquième fois de sa carrière que Roger Federer déclare forfait en cours de tournoi. La direction de Roland-Garros se dit désolée de son forfait et lui souhaite le meilleur pour la suite de la saison.
Voilà, Corinne Boulou qui a suivi jusqu'à 1h du matin ce match sur le central.
Oui, et on reviendra peut-être sur ce statut d'exception. Le forfait de Federer pose des questions. Il en sera question dans les journaux des sports et à 19h40 avec Cédric Pioline et Corinne Boulou. Nous sommes à 3 jours d'une nouvelle étape de déconfinement. Les restaurants seront ouverts à l'intérieur. Le couvre-feu passe à 23h notamment, c'est donc mercredi. Et dans tout cela, l'économie redémarre pour Bruno Le Maire.
Le ministre de l'économie était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews et Écho, Maud Descamps, et il a clairement dit que les clignotants étaient ouverts.
Oui, Bruno Le Maire, optimiste, chiffre à l'appui. Dans l'habillement, par exemple, les achats ont bondi de 70% par rapport au mois de mai 2019. Les dépenses par carte bancaire dans la restauration sont à environ 85% de leur niveau de la même époque en 2019. Des indicateurs qui montrent une reprise de la consommation générale, a détaillé le ministre ce matin sur Europe 1.
Moi, je pense que le top départ, il a déjà été donné. On le voit dans les chiffres de consommation qui sont très bons. Ils étaient dans la première semaine 20% supérieurs à la même période de 2019. Il y a eu un effet boost du redémarrage. Aujourd'hui, dans la semaine du 24 au 30 mai, les dépenses par carte bleue sont supérieures de 15% à ce qu'elles étaient dans la période 2019. Donc l'économie française redémarre déjà.
Le ministre de l'économie a également souligné que l'enjeu était désormais de maintenir cette reprise. Un appel du pied lancé aux Français pour soutenir les secteurs qui ont le plus souffert ces 12 derniers mois, notamment les restaurants, les cinémas ou encore les hôtels et les théâtres.
Bruno Le Maire qui a aussi dit que les aides allaient baisser avec cette nouvelle étape du déconfinement, mais qu'il ne redoutait pas une vague de faillite. Un constat, vous allez l'entendre nuancé par l'économiste Éric Heyer, le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE.
C'est très bien, on a arrêté l'hémorragie. Petit à petit, l'économie va retrouver un niveau normal, mais on n'est pas revenu au niveau normal. Aujourd'hui, l'économie française tourne à peu près aux alentours de 4 à 5% en dessous de son niveau normal. Et certains secteurs sont encore à moins 28, moins 29 du rythme normal. Donc, il y aura sans doute un peu plus de faillites parce qu'en règle générale, une année normale, il y a à peu près 50 000 entreprises qui font faillite. En 2020, il n'y a eu que 35 000 parce qu'on a sauvé toutes les entreprises, y compris celles qui auraient dû faire faillite. Donc, il faut s'attendre tout de même à ce que un peu plus d'entreprises qu'une année normale fassent faillite en 2021. Alors, on peut tenir encore sous perfusion un certain nombre d'entreprises, mais c'est vraiment retarder un certain nombre d'échéances. Donc, aujourd'hui, ça va mieux, mais ça ne va pas bien.
L'économiste Éric Heyer qui décryptait les propos de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui, sur le dossier des retraites, dit qu'il faut que la réforme ne tarde pas, et que, comme Emmanuel Macron, pour lui, c'est une priorité absolue. Enfin, Bruno Le Maire qui n'a pas parlé qu'économie ce matin, il a aussi parlé régional avec une charge contre le Rassemblement National qui n'est pas un grand parti, c'est le parti du rétrécissement, une petite chose qu'on doit combattre. Fin de citation.
Europe Soir Weekend.
À suivre, une question sur Europe 1. Va-t-on faire la fin du masque en extérieur et quand? Certains s'impatientent à l'approche de l'été, évidemment. Olivier Véran annonce une perspective à la fin juin. On entendra le ministre de la Santé dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
Et Fabienne Lemoyle pour vous informer. 18h08 sur Europe 1. L'heure est à la décrue sur le front de l'épidémie. Un peu moins de 7000 contaminations enregistrées hier et toujours 2500 personnes en réanimation, Fabienne.
Alors beaucoup se demandent quand on en aura fini avec le masque porté dehors. Il va rester obligatoire au moins jusqu'à fin juin. C'est ce qu'a dit ce matin Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui dit qu'il pourrait y avoir des règles différentes suivant les lieux avec plus ou moins de monde. Car c'est vrai, Damien Mestre, vous l'avez constaté, qu'avec l'été qui approche et le beau temps, il y a une forte envie de l'enlever, ce masque.
Oui, par exemple, dans ce parc parisien, il fait beau, il y a beaucoup de monde, on pique-nique, on fait du sport ou alors juste la sieste. Mais chez la grande majorité, le masque reste dans la poche.
Enfin, le but d'être en plein air, c'est de pouvoir respirer, quoi. Enfin, je pense qu'on est assez étouffé à longueur de temps avec le masque, quoi.
Pourtant, il y a ce panneau très clair à l'entrée.
Dans cette zone, le port du masque est obligatoire.
Et alors, vous allez le garder ou pas?
50% de chance que je l'enlève.
Et visiblement, personne ne culpabilise trop.
Quand je vois qu'en terrasse, on est tous collés et qu'on l'a pas, je trouve ça ridicule de l'avoir en pleine rue, quoi.
Ça en agace. D'ailleurs, certains qui, eux, sont plus rigoureux, enfin, à peu près.
La loi, c'est la loi, monsieur. On n'est pas hors la loi. On doit respecter.
Si je puis me permettre, vous le portez à moitié quand même, il y a le nez qui dépasse.
Bah voilà, je le remets.
Il faut dire qu'avec le couvre-feu à 23h dès mercredi, le nombre de contaminations qui passe sous les 10 000, on verrait presque le bout du tunnel et personne ne veut revivre un été avec masque.
C'est pas une vie d'avoir un masque.
Ça tenait quand même pas mal chaud et puis je me retrouvais avec une marque de bronzage à ce niveau-là, au niveau de la joue, et c'est pas hyper glamour, on va dire.
Pour se baigner, c'est pas pratique.
Et en tout cas, Olivier Véran l'a promis ce midi, Fabienne, on ne demandera pas aux Français de porter le masque à l'extérieur, dit-il, un jour de plus que nécessaire.
Damien Maistre, direction Arles, pour continuer avec les taureaux de retour dans l'arène, première corrida de la saison aujourd'hui, et une jauge de spectateurs réduite dans les gradins, ce qui n'enlève rien au plaisir des aficionados, Stéphane Frangy.
En effet, puisque le plaisir de retrouver leurs sensations est plus fort que tout pour les aficionados comme Patrick et Simon.
Ça peut pas aller mieux pour nous là. Putain, si ça nous a manqué, on était contents de... Ouais, ah oui, vraiment, vraiment, mais vraiment, vraiment, énormément.
Voir un paseo, entendre la musique, voir des taureaux, c'est une émotion à part et elle est indescriptible. Ben, ça serre le cœur. Hein.
Voilà, les mouchoirs blancs agités, les fleurs jetées au son de l'orchestre. Certains ont fait une très longue route jusqu'ici. René, lui, vient de Miami.
Premier jour, feria, il fallait le faire. Extraordinaire. Pour moi, c'est cruel, mais c'est beau. C'est un spectacle, c'est l'homme contre la bête.
Mais d'autres, comme Rémi, soulignent également que c'est là un événement à minima, avec moins de 3000 spectateurs et puis surtout sans beaux dégâts ni fanfare à la sortie.
Non, là, non, c'est pas une vraie feria, là, non. L'ambiance n'est pas là. Bah, il manque l'enthousiasme, la joie des spectateurs, les bistrots, de savoir qu'on va se retrouver entre copains après. Ça manque un peu, bien sûr. Ça fait partie du jeu. C'est un ensemble, la tauromachie.
Et effectivement, le contraste est saisissant dans les rues calmes du centre historique d'Arles qui accueille en moyenne 45 000 personnes chaque jour au moment de la feria.
Stéphane Frangy-Arles pour Europe 1 et puis on termine avec ce carnet rose, les médias britanniques, notamment la BBC qui annonce la naissance de la petite Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, c'est-à-dire la fille d'Harry et Meghan qui avait déjà un petit garçon qui s'appelait Archie.
Bah oui, deuxième enfant et double hommage hein, à la fois à Elisabeth, la grand-mère, Lilibet et à la maman, évidemment, d'Harry, Diana. Merci Fabienne Lemoyle. C'est un salut que je vous envoie de Roland-Garros également. On se retrouve la semaine prochaine. Voici le ciel.
La météo avec l'assurance habitation BNP Paribas. L'assurance habitation qui s'adapte à vos besoins. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
C'est une belle semaine qui s'annonce, Valérie Darmon.
Effectivement, c'est un temps sec et chaud qui domine toute la semaine malgré un peu d'instabilité en montagne. Alors je commence évidemment par ce lundi. Le soleil s'impose dans l'ouest de la France alors qu'un petit risque d'averses orageuses concerne toujours, mais de moins en moins, les régions de l'est. Mardi, le soleil continue de dominer avec toujours près des frontières de l'est un peu plus de nuages et un risque d'ondées orageuses en montagne dans l'après-midi. De mercredi à vendredi, l'anticyclone des Açores est solidement installé. Il est revenu d'ailleurs ce dimanche. Il apporte soleil et chaleur. Et en fin de journée, une évolution instable reste possible dans l'est du pays, avec un petit risque d'ondées orageuses. La chaleur sera tempérée par un petit vent de nord-est tout au long de la semaine, avec 21-23 au nord, 30 à 32 dans le sud-est, ainsi que sur l'Aquitaine, notamment à partir de mercredi prochain. On se situera donc 2 à 5 degrés au-dessus des normales de saison.
Merci Valérie. Voici l'actu des sports. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Et sans surprise, on commence avec du tennis.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Et qui accueille ce soir le studio d'Europe 1 des internationaux de France, désormais privé de Roger Federer, nous en parlions, mais la quinzaine se poursuivra sans lui, avec la reine de la journée qui a fait son entrée sur le court Philippe Châtrier.
Et oui, c'est Serena Williams qui tente à bientôt 40 ans de battre un record qui lui tend les bras depuis de nombreuses années. Bonsoir Axel May.
Bonsoir.
Ce record, c'est celui du nombre historique de victoires dans un tournoi du Grand Chelem, pas forcément très bien parti ce soir.
Oui, elle vise toujours le record de Margaret Court, l'Australienne, 24 titres en Grand Chelem. Le dernier Grand Chelem qu'elle a remporté, c'était en 2017 déjà, Serena Williams. Là, elle est opposée à Elena Rybakina, une Kazakh née à Moscou, donc d'origine russe. Et elle est un peu chahutée, hein, puisque dans le premier set, elle est menée 4-2. Et c'est Rybakina qui sert, autrement dit, elle a déjà breaké Serena Williams. Et on le sait, c'est pas forcément sur la terre battue hein, qu'elle a le plus de chances de rattraper le record de Margaret Court. Mais en tout cas, le public est là pour la soutenir. dans sa tenue verte fluo. Voilà, 4-2 pour l'instant donc en faveur de Rybakina dans le premier set.
Toujours flashy Serena Williams. À noter également la qualification probante pour les quarts de finale de Stefanos Tsitsipas, le grec, tête de série numéro 5 aux dépens de l'espagnol Karen Augusta en 3-7, également qualifié le numéro 2, la tête de série numéro 2, Daniil Medvedev, le russe francophone. Ça sera d'ailleurs la première affiche des quarts de finale. Tsitsipas, Medvedev, et ça promet, Wendy.
Et le tennis, on y revient régulièrement dans ce journal. On passe au foot. L'équipe de France se prépare à l'Euro et s'entraîne à Clairefontaine avec un joueur très attendu aujourd'hui en conférence de presse, Jean-François.
Oui, dimanche dernier, si vous vous souvenez, c'était le très clivant Karim Benzema. Et bien aujourd'hui, c'était la mascotte de l'équipe et du public. N'Golo Kanté, formidable vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, est toujours aussi gêné par la popularité qui est autour de lui et qu'il juge disproportionnée. Écoutez-le.
Non, je pense que je le vis avec pas mal de distance. Et tout ce qui se dit, je fais pas très attention à ce qu'il dit et je me concentre sur les objectifs du club et de la sélection. Non, c'est vrai que parfois on peut avoir une image un peu trop belle, un peu trop jolie. Mais au final, je suis juste quelqu'un de normal, un joueur parmi tant d'autres. Et il n'y a pas à dire que je suis le plus gentil, le plus sympathique, je suis juste un joueur comme les autres.
N'Golo Kanté avec Marie Guida, l'occasion de vous dire que Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, sera l'invité de la matinale d'Europe 1 demain matin, 7h40. Et puis interview exclusive Europe 1 avec Michel Platini ce soir dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau.
Très bien, merci. L'actualité des sports mécaniques, en effet. Les sports mécaniques et tout d'abord les mésaventures du français Quartararo en MotoGP.
Oui, le pilote Yamaha a pris la quatrième place d'un Grand Prix de Catalogne remporté par le portugais Miguel Oliveira devant Johan Zarco, l'autre français. Mais c'est donc Quartararo qui s'est distingué en passant la ligne d'arrivée avec sa combinaison ouverte. Un petit problème technique qui lui coûte une pénalité de 3 secondes, mais pas la première place au championnat du monde. Écoutez les mésaventures du Niçois avec Alex Yam.
C'est pas génial, sincèrement, c'est pas la meilleure sensation que j'ai eue. Conduire un scooter, je pense que ça va, mais conduire à 340 et sentir vraiment que avec l'air qui rentre dans la combinaison, ça fait un effet parachute et que malheureusement, j'arrivais pas trop à m'arrêter au bout de ligne droite et dans les freinages assez forts. Mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux et c'était pas la meilleure des sensations, malheureusement.
Voilà, ouais, Quartararo. C'est pas qu'on puisse dire. Alors, en Formule 1, ça va vite là aussi. Victoire pour l'écurie Red Bull au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Elle devait revenir à Max Verstappen, leader à 5 tours de l'arrivée. Mais le Néerlandais a été victime d'une crevaison à 300 km/h. Heureusement, sans gravité pour lui. C'est son coéquipier mexicain, du coup, Sergio Pérez, qui s'impose devant Sébastien Vettel sur Aston Martin. Et le Français Pierre Gasly sur son Alfa Tauri, troisième. Un dernier mot de cyclisme, Wendy. 36 ans après Phil Anderson, un Australien de 36 ans lui aussi, remporte le critérium du Dauphiné. C'est Richie Porte qui devient le vainqueur le plus âgé de l'épreuve. Une épreuve qui est souvent considérée comme une répétition générale avant le Tour de France.
Tour de France, bien sûr. Jean-François Pérez, qu'on retrouve après le journal de 19h sur Europe 1.
À tout à l'heure.
Merci. Soir week-end. 18h17 et je reçois dans un instant Raïm Korsia, réélu à midi, grand rabbin de France pour un nouveau mandat de 7 ans. Quelle est sa vision du pays alors qu'il tient à servir la République encore et encore, lui qui fut aumônier des armées. On le retrouve dans un instant sur Europe 1.
Europe Soir week-end, Wendy Bouchard.
Merci d'écouter Europe 1, avec ce soir la plus haute personnalité de la communauté juive, grande voix de la République. Avec nous, le grand rabbin de France, réélu ce matin pour un mandat de 7 ans au premier tour, 74% des voix. Bonsoir Raïm Korsia.
Bonsoir.
Magnifique réélection pour un homme qui voulait continuer de servir la République. C'est un honneur.
Je suis engagé pour servir et les chiffres disent simplement qu'il y a une sorte de contrat de confiance. Et moi j'ai besoin de rendre des comptes, cette communauté pour qui je me bats au quotidien, parce que à travers elle, c'est aussi pour la République, comme vous le disiez ici, justement, que je me bats. Et donc les chiffres importent peu. Ce qui est vraiment fondamental pour moi, c'est cette envie de faire encore des choses. Mmh. Et il y a une sorte d'engagement à tous ensemble transformer la société. Jamais, jamais, personne ne peut faire quoi que ce soit seul. C'est une règle absolue de la vie. Et donc je crois que une élection, c'est un moment où on coagule des volontés, des désirs de faire des choses, et peut-être des rêves. Oui, des rêves. Et peut-être que notre société aujourd'hui manque de rêves, et il est important d'en créer, d'en réinventer.
C'est important de vous entendre là-dessus, Raïm Korsia, parce qu'au-delà de la dimension religieuse, spirituelle de votre engagement, il y a cette posture éminemment sociale, républicaine. C'est aussi l'une de vos missions, Raïm Korsia, de sentir, de ressentir les Français.
Peut-être de sentir les vibrations du pays. Ça a toujours été le propre du judaïsme. Qu'est-ce que nous faisons, tous les cultes, chacun dans sa spécificité, analyse ses textes, sa sagesse, son histoire humaine, pour essayer de dire, ben voilà, les mécanismes qui sont en marche aujourd'hui, ben voilà comment on peut en tirer une expérience et on peut essayer de transformer la société, améliorer la société. Moi, j'essaie de prendre ma part avec les autres cultes, avec tous les penseurs, avec les athées, avec chacun, chacune de celles et ceux qui font la société. Et je vois bien que ce qui motive notre société, c'est la peur, la colère, la violence, des choses, si vous permettez, que je retrouve dans la Bible. Quand les Hébreux disent à Moïse dans la Bible, alors qu'ils sont dans le désert, que le pain leur tombe du ciel, et ils disent à Moïse, oui, ce pays où nous étions avant, en Égypte, où coulait le lait et le miel, l'inversion des choses. Est-ce que vraiment l'Égypte, c'était un pays où coulait le lait et le miel? Ils oublient l'esclavage. Donc en gros, on a aussi une capacité à dire, mais regardez, cette façon de voir le monde, elle est fréquente. Quand on souffre, on oublie ce qui était notre passé, on oublie ce qui est notre avenir. Et moi, je crois que si on arrive juste à faire un pas de côté par rapport à cette colère et par rapport à cette rancœur, oui, il y a des élections, il y a du débat, c'est naturel, c'est même consubstantiel à ce que nous sommes en France. Nous sommes un pays de débat. Mais il faut après être capable de tracer des chemins, des horizons et pour proposer une amélioration de la situation pour chacun. On l'a vu avec les Gilets jaunes, je maintiens qu'il fallait entendre cette souffrance des gens qui ne se sentent pas faire partie de la photo de la France qui réussit. Et pourtant, sur qui nous nous sommes appuyés pendant la pandémie ? Sur les caissiers, les caissières, sur les soignants, les livreurs, les éboueurs, les personnels que j'ai vus moi dans les enterrements. Toute cette somme de dévouement de ce que d'aucuns ont appelé les gens de peu, mais qui sont la France, eh bien, on doit les intégrer, on doit entendre cela pour pouvoir leur proposer une forme de contrat de confiance. Oui. On va améliorer la société pour vous.
Car il y a ce constat, Raymond Garcia, de la fracture, de la fragmentation de la société, cette colère que vous décrivez qui s'assoit aussi sur un an et demi de pandémie, et au bout, la tentation du pire.
Vous savez ce qu'est le pire ? Le désintérêt. Ce qu'on appelle en politique l'abstention. Et si nous avons des concitoyens qui deviennent indifférents aux affaires du pays, alors c'est terrible. Et je crois que ce qui est important, c'est de leur donner conscience que oui, par un vote, par un engagement, on peut transformer la société. Et les fidèles que je vois dans les synagogues sont aussi des citoyens.
Qui sont aussi parfois en déshérence, qui n'ont pas tous retrouvé le chemin de la synagogue.
Les mêmes, il y en a qui sont éloignés des synagogues, il faut trouver comment les faire revenir, il faut trouver comment leur donner la possibilité de se sentir acteurs de quelque chose. Mais il faut que chacun, chacune soit persuadé que son engagement est vital pour transformer la société.
Et rétablir aussi la place de la communauté, la place des Juifs de France dans un débat français. Au-delà de l'actualité en Israël, il y a parfois beaucoup, hélas, trop d'amalgames. L'arrivée d'un nouveau président là-bas en Israël, une coalition anti-Netanyahou, sont-ils pour vous de nature à apaiser le débat aussi en France ?
Je ne me prononce jamais sur la politique israélienne, mais je note juste que ce président qui vient d'être élu en Israël, M. Herzog, est le fils de quelqu'un qui est venu débarquer sur les plages de Normandie en 44.
Nous sommes le 6 juin.
Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 6 juin. Son papa est venu débarquer 7 jours après le 6 juin. Vraiment. Il a débarqué, il était d'origine irlandaise, il a débarqué pour venir sauver la France. Et son grand-père était un rabbin éminent d'une institution juive à Paris. Donc il a une sorte de tendresse pour la France. Et moi, je pense que c'est important de capitaliser là-dessus pour tisser des liens de confiance et tisser des liens d'espérance.
L'histoire nous oblige. Vous êtes passionné vous-même d'histoire, Raïm Korsia. Lorsque Fayard réédite Mein Kampf cette semaine, sous forme de version étudiée et commentée, pour ceux qui veulent mieux étudier cette histoire. Que dites-vous ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que cela vous dérange ? Je rappelle qu'il n'y aura pas de promotion, pas de titre en couverture, édition limitée.
Et si vous me permettez de corriger, la première fois que je le fais sur ce que vous dites, cher Wendy Bouchard, c'est pas Mein Kampf.
C'est vrai.
C'est historiciser le mal.
Absolument.
C'est-à-dire que c'est un appareil critique et les éditions Fayard ont respecté l'intégralité des demandes tous les chercheurs, tous les responsables communautaires. Mais moi, j'ai été consulté en cette matière, l'oracle. C'est Serge Klarsfeld. Je lui ai demandé, Serge, dites-moi, ce que vous me dites, je suivrai la ligne. Parce qu'il faut faire confiance à cet homme qui a été une forme de prophète,
bien sûr,
qui a donné un visage, un nom à tous les 76 000 déportés de France. Il a reconstitué les listes, et notamment le mémorial des enfants, c'est bouleversant. Il m'a dit, on ne peut pas à la fois reprocher au monde de ne pas avoir lu ce livre pour savoir ce qu'il allait faire, et aujourd'hui empêcher de le lire. Et j'ai trouvé que c'était une mesure de bon sens, et j'ai suivi sa ligne. Qui suis-je pour oser contredire Serge Klarsfeld ? Donc je pense que c'est bien, et que les éditions Fayard ont pris toutes les précautions pour ne pas en faire un objet d'adoration, mais bien un objet de compréhension du mal aujourd'hui. Et j'ai le sentiment que trop souvent, c'est même une posture facile à adopter. Qu'on se dit avant c'était le mal et aujourd'hui tout va bien. Non, la haine sur Internet, elle est là. Le négationnisme, il existe. Le rejet, l'antisémitisme, il existe. Et il faut lutter contre cela en montrant les dérives terrifiantes auxquelles on peut aboutir si on ne prête pas attention aux signaux.
Car il y a ce terreau de crise et de colère, Haïm Korsia. J'aurais terminé avec une question parce que j'ai reçu beaucoup de messages en ce sens, notamment sur la conversion des enfants qui ne seraient pas nés de mère juive, la nécessité de la facilité. C'était l'un de vos engagements. Allez-vous pouvoir facilement avancer avec le consistoire là-dessus pour répondre à ceux qui m'ont écrit à ce sujet, Haïm Korsia, ce soir?
On parle bien des enfants dont le papa est juif, la maman ne l'est pas. Mm-hmm. Et ils sont en demande. Il faut qu'on leur reconnaisse une part dans notre destin collectif. Et donc voilà pourquoi, pour eux, je veux qu'on parle de régularisation, non pas de conversion. Mm-hmm. Et donc, le consistoire, tous les consistoires, tous les tribunaux rabbiniques de France, et celui de Paris en particulier, traitent ces demandes avec beaucoup de bienveillance. Mais il faut, comme toute chose, un minimum d'engagement à respecter ce qui est la base d'une vie juive en collectivité et individuellement. Et les rabbins sont les accompagnateurs idéaux. Et moi, je suis l'accompagnateur des accompagnateurs, on le dirait différemment, le serviteur des serviteurs.
Merci. Le début d'une nouvelle mission, un nouveau mandat de 7 ans commence aujourd'hui. Haïm Korsia, vous qui avez été réélu ce matin, grand rabbin de France. Merci d'avoir été présent ce soir sur Europe 1.
Europe Soir Weekend.
18h28, dans deux minutes, le débat des grandes voix en direct de Roland-Garros. Du terrain de jeu avec les belles valeurs du tennis au terrain politique à 15 jours du premier tour des régionales. A tout de suite avec Amine El-Khatmi, Laetitia Krupa et Frédéric Dabi.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
18h31, si vous nous rejoignez, vous êtes au cœur du 18-20 sur Europe 1. Voici le fil info. Sophie Tussaud, bonsoir.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. La réforme des retraites interrompue par la crise sanitaire reste une priorité. Déclaration de Bruno Le Maire, invité ce matin du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Sans s'exprimer sur un report de l'âge légal de départ, le ministre de l'Économie plaide pour un volume global de travail plus important. Le port du masque restera obligatoire en extérieur durant tout le mois de juin. Déclaration d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui note une forte amélioration de la situation sanitaire en France. En Allemagne, les conservateurs nettement en tête dans un scrutin régional, une élection considérée comme le dernier test électoral avant les législatives de septembre qui marqueront la fin de l'ère Merkel. Séisme à Roland-Garros cet après-midi. Roger Federer a déclaré forfait avant son 8e de finale. Une décision par précaution sur un corps encore convalescent après sa blessure au genou l'année dernière. Le 77e anniversaire du débarquement en cérémonie à Vers-sur-Mer dans le Calvados pour inaugurer le mémorial britannique et ce afin de rendre hommage aux 22 000 soldats venus du Royaume-Uni tués en 1944 sur les plages de Normandie. Et puis carnet rose pour finir, le prince Harry et Meghan Markle annoncent la naissance de leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Lilibet Diana. Harry et Meghan qui sont déjà les heureux parents d'un petit Archie âgé de 2 ans.
Merci Sophie, à tout à l'heure 19h sur Europe 1. Valérie Darmon, petit point météo ou un ciel qui évolue assez peu demain?
Effectivement, les minimales varieront entre 9 et 15 degrés d'ouest en est, 16 à 19 sur les régions méditerranéennes. Les maximales sont en hausse entre 19 et 23 sur les régions du nord-est, c'est-à-dire Alsace, Lorraine, Champagne et Ardennes, et près de la Manche, 23 à 27 sur le reste du pays, avec des pointes à 30 près de la Méditerranée. Côté ciel, de l'Alsace et des Vosges au Jura, et sur l'ensemble des Alpes, le temps est mitigé avec le développement d'averses en journée, sous un ciel évidemment plus chargé. Quelques orages se déclenche aussi sur le relief alpin. De la Lorraine à la Bourgogne, à l'Auvergne, le ciel est variable avec quelques averses éparses en matinée et puis les éclaircies vont s'élargir en cours d'après-midi. Ailleurs, le temps est calme, sec, partagé entre éclaircies et cumulus. Le ciel est bien dégagé sur le pourtour méditerranéen grâce au vent, tramontane et mistral qui souffle modérément avec des rafales à 70 km/h.
Merci Valérie.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1 en débat dans notre studio installé pour la quinzaine à Roland-Garros en ce dimanche 6 juin. Il nous accompagne jusqu'à 19h. Ce soir, Laetitia Krupa, journaliste politique, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, Amine El Khatmi, président du Printemps républicain. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, vous qui êtes allés aussi côté court. Vous allez nous relater quelques souvenirs et impressions aussi de ce Roland-Garros. On va revenir sur le coup de tonnerre d'ailleurs du jour, sur la porte d'Auteuil, dans ce microclimat qui ne bénéficie pas à l'une des stars du tournoi, Roger Federer. Et puis nous irons sur un autre terrain de jeu à 15 jours des régionales. Que disent les études? Nos grandes voix vous répondent. A tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1 jusqu'à 19h à Roland-Garros, porte d'Auteuil. On va aborder toute l'actualité, évidemment. Mais aussi le tennis, sport de combat, sport physique, mais aussi ô combien mental. Laetitia Krupa, Amine El Khatmi, Frédéric Dabi, vous êtes avec nous. Et pardon de donner d'abord, Laetitia Krupa, la parole à Frédéric Dabi, mais je le sais tellement fan de tennis et encyclopédie aussi des joueurs ici. Roger Federer, il s'est qualifié à 1h du matin, il a joué 3h30, il déclare forfait. Aujourd'hui, alors ça fait de la peine à ceux qui le suivent, parce qu'on l'aime tellement, mais on se dit, oui, mais alors... vous sacrifiez Roland Garros pour vous préserver sur autre chose, pour Wimbledon, c'est un peu dur. Quand
Il l'avait déjà fait deux fois, Wendy, en ne jouant pas Roland Garros. Il y a deux ans, c'était son grand retour. Il avait joué en demi-finale contre Djokovic, je crois. Ce qui est absolument incroyable, c'est ce joueur, 40 ans, qui n'a plus rien à prouver, qui a le plus grand palmarès de l'histoire du tennis, même si Nadal et Djokovic ne sont pas loin. Et ferraille dans un stade vide jusqu'à minuit 57 contre un joueur pas très connu qui a même failli le faire sortir du tournoi. Et quand on lui a demandé mais pourquoi continuez-vous à jouer comme ça, il a eu une réponse tellement simple: j'adore le tennis, j'adore jouer. Et il a déclaré forfait parce que son grand
objectif,
en fait il y en a deux, c'est Wimbledon et peut-être les Jeux Olympiques de Tokyo.
Ouais, donc tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est de préférer Wimbledon à Roland-Garros. Bah ça, c'est notre côté chauvin.
Bien sûr,
normal.
Bien sûr, mais pour lui, c'est son plus grand tournoi. Il l'a gagné, je crois, 8 ou 9 fois.
Oui,
donc c'est son tournoi.
Oui, bon, on va revenir.
Moi, je trouve que pour parler de la communication de Federer, je pense que ce sera un très bon exemple pour les hommes politiques parce qu'il a une constance dans sa communication, ce flegme. Alors, c'est un peu le caractère suisse, évidemment. Parfois, c'est vrai qu'on l'embête un peu avec cette caractéristique, mais je trouve que cette communication est parfaitement maîtrisée et dessine un caractère et en tout cas un attachement, crée un attachement avec ce joueur de tennis là. Et pourtant il ne lance pas sa raquette, pourtant
c'est ça qui est incroyable. Ouais.
Non, mais c'est-à-dire qu'on peut,
c'est la force tranquille Federer,
voilà, on peut être populaire et on peut fédérer comme ça un soutien tout en restant toujours dans un flegme un peu britannique, toujours sur un fil et toujours très calme. Et le communiqué qu'il a fait paraître aujourd'hui, il y a encore vraiment imprégné ce calme-là, cette tranquillité, cette sérénité tout à fait maîtrisée.
Bah, quand on parle d'ambassadeur du tennis et de grandes valeurs, il est parfaitement dans le cadre. Je recevais le président de la Fédération de tennis la semaine dernière, Gilles Moreton, qui vient d'être élu et qui aimerait justement que des joueurs français d'une nouvelle génération représentent aussi ces valeurs, l'élégance, le respect, la résilience, la puissance. Enfin, voilà, ce sont des belles valeurs qu'on retrouve dans toute la société. Amine El Khatmi, je crois que vous avez fait un long tour dans Roland-Garros aujourd'hui, en assistant à quelques matchs aussi. Et il y a une puissance, quoi.
Oui, il y a une puissance, il y a une beauté de ce sport qui en plus pâtit d'une image un peu le tennis tout de suite on dit c'est élitiste, c'est réservé. Moi je me souviens, j'ai fait du tennis parce que j'étais dans un quartier populaire et Yannick Noah avait eu la magnifique idée de créer une initiative qui s'appelle Faites le mur. Et grâce à Faites le mur, ben moi enfant de la reine Jeanne, j'ai pu faire du tennis et découvrir ce sport. Et aujourd'hui c'est vrai que me retrouver à Roland Garros et pour la première fois, c'était un beau moment. Donc je ne peux qu'inciter les jeunes à se rapprocher de Faites les murs. Il y en a quasiment dans toutes les villes maintenant et à découvrir ce sport.
Merci beaucoup. Vous avez vu jouer les Français, un Français, Nicolas
Mahut, en double.
En double.
Et
oui.
Il a gagné en plus.
Voilà.
On a chanté la Marseillaise à la fin. C'était un beau moment.
Avec Pierre-Hugues Herbert.
Alors,
Herbert, vous parliez de Yannick Noah. Alors hier, on a fêté un triste anniversaire puisque Le 5 juin 83, c'est la victoire de Yannick Noah. Et depuis, plus de victoires françaises masculines. Puisqu'en en 2000, on l'oublie d'un peu trop facilement, Marie Pierce avait remporté Roland Garros, mais depuis 38 ans. Et là, cette année, Wendy, c'est une bérésine à jamais vue, puisque plus de Français à l'issue du second tour. Oui. C'était pas arrivé depuis l'ère Open. Et avec la notre belle génération, Tsonga, mon fils, Gasquet, Simon, qui sont maintenant près de la retraite, on est peut-être dans une période de vache mec qui va durer très très longtemps.
Il y avait un autre anniversaire à célébrer, hein, en tant qu'enfant, grandissant, c'est dans les grandes images médiatiques du tennis.
Aujourd'hui, Björn Borg fête ses 65 ans, il est né le 6 juin 1956, et cette année, Wendy, 2021, c'est les 40 ans de la dernière victoire de Borg à Wimbledon, qui battait un petit jeune qui s'appelait Ivan Lendl, qui a été aussi un très grand joueur à Roland-Garros. C'est ce qui est fou, on l'appelait le roi Borg au début du tournoi. Les pronostics, c'était qui va perdre en finale contre Borg, et on disait mais personne ne gagnera 6 fois Roland-Garros comme lui. Et est arrivé l'empereur, l'ogre, je vous laisse choisir le qualificatif, Rafael Nadal.
Ouais, merci beaucoup pour ce tour de Roland-Garros. On change de terrain à 18h42.
Wendy Bouchard, les grandes voix.
Avec le terrain politique, et oui, il nous intéresse. Nous sommes à 15 jours d'un scrutin régional départemental dont on va parler dans un instant. Mais si vous voulez bien, parce que cette phrase a retenu votre attention, Laetitia Krupa, vous qui publiez La tentation du clown, c'est cette phrase de Marine Le Pen. Face à la tentation qu'aurait, ou que certains prêtent à Éric Zemmour, de prétendre à l'Élysée 2022. C'est un danger pour le camp national, dit-elle en espèce. Alors, elle explique, Laetitia Krupa, que c'est un éditorialiste, un écrivain respecté et écouté, mais qu'il ne faut pas affaiblir le camp national en se présentant de son côté. Alors, elle le craint, elle le redoute, ou elle casse ses ambitions ?
Il y a une double habileté, il me semble. Déjà, en désignant ce camp national, elle englobe et elle vampirise l'espace LR. Parce que entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, je vous rappelle quand même qu'il y a les Républicains. Enfin, pour l'instant, ils n'ont pas de chef vraiment déterminé, mais il y a cet espace qui existe. Donc, c'est stratégiquement habile et elle fait un peu du Macron finalement, parce que Emmanuel Macron lui-même avait fait savoir qu'il avait eu Éric Zemmour au téléphone. C'est Éric Zemmour qui s'en était targué sur son plateau. Et donc il y a comme ça un jeu un peu dont il ne faut pas être dupe, hein, il me semble, parce que c'est le public, ce sont les Français qui sont un peu les larrons de la foire. Si vous voulez, en parlant d'Éric Zemmour, elle aspire son potentiel présidentiable, parce qu'elle tente de dégonfler la baudruche avant même qu'elle ne se gonfle.
Tout en disant, je vous apprécie beaucoup et restez dans le camp que vous affectionnez, mais ne vous présentez pas.
Évidemment, mais avant, on ne parlait pas de candidature qui était absolument potentielle. Enfin, rien ne dit qu'Éric Zemmour va se lancer à l'assaut de l'Élysée. Or, notre époque veut que l'on parle comme ça d'hypothèse abracadabrantesque pour l'instant, sans avoir aucune preuve, mais on préfère précéder ce qui va arriver, quitte à créer un artefact politique.
Oui, parce que c'est ça la sert, ça la sert, évidemment.
Évidemment.
C'est très habile, en effet, Amine El-Khatmi. C'est-à-dire que si vous aimez Éric Zemmour et qu'il ne se présente pas, je suis là. C'est ce qu'elle dit, Marine Le Pen, en substance.
Oui, bon, pour moi, tous ces gens sont des adversaires, donc j'observe ça un peu de loin. Mais si on se met, je parle sous le regard de Frédéric Dabi, dont c'est le métier. C'est vrai que si on se met à la place de Marine Le Pen, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études ou d'être justement un sondeur pour comprendre qu'il va davantage grignoter de voix à l'électorat de Marine Le Pen qu'à l'électorat écologiste, insoumis ou macroniste. Donc évidemment, si à un moment se joue pour elle la question d'une qualification, parce qu'il lui prendrait, je sais pas, Frédéric va sans doute nous en parler, 5, 6 ou 7 points, c'est évident que ça complique sa tâche. Voilà. Bon, après, moi, j'espère les battre et les faire battre, et j'appellerai à voter pour quiconque sera en face d'eux. Mais si on s'en tient à Marine Le Pen, oui, ce n'est pas une bonne nouvelle pour elle. Et paradoxalement, ça pourrait être plutôt une bonne nouvelle pour le troisième homme ou la troisième femme, notamment s'il vient de chez les Républicains, qui rendrait une éventuelle qualification plus possible, réalisable, qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisque Xavier Bertrand plafonne à 16%.
Je rappelle que ce n'est pas une nouvelle. Je rappelle que pour l'instant, c'est une non-information. Je rappelle pour l'instant la candidature d'Éric Zemmour n'existe pas.
Absolument. Elle existe dans la bouche des autres.
Voilà. Frédéric Dabi. C'est vrai, vous avez raison, Laetitia, de dire que tout ça, c'est du virtuel. Mais ça en dit long sur la décomposition du paysage politique. Et c'est tout à fait le sujet de votre livre, La tentation du clown. Ce qui est très, très intéressant, c'est de voir comme Marine Le Pen veut rassembler son camp au plus vite et de manière massive, car elle a en tête son histoire électorale, son histoire présidentielle dont personne ne parle. Elle n'a jamais connu une dynamique à l'élection présidentielle. En 2011, en septembre, elle était devant Nicolas Sarkozy. Elle a été très nettement derrière. En 2016-2017, jusqu'à février, dans notre rolling IFOP fiducial, elle était en première position. C'est finalement Emmanuel Macron. Elle a été à un score plutôt faible, à peine 3 points de plus qu'en 2012. Donc elle veut rassembler ce camp. Maintenant, voilà, pour Éric Zemmour, ça reste du virtuel. Et vous savez, il y a toujours un passage et un récit à faire quand on va être candidat à l'élection présidentielle. Quel récit pourrait-il faire pour passer de l'éditorialiste, de l'écrivain, brillant pour certains, controversé pour d'autres, au candidat à l'élection présidentielle? Toute proportion gardée, ça me rappelle les difficultés de Noël Mamère qui, lui, s'en était sorti pour passer du statut de journaliste, il présentait le JT d'Antenne 2 et un magazine qui s'appelait Résistance, à candidat naturel des Verts. Ça avait été compliqué pour lui.
Bon, vous avez raison, assez parlé de lui, vous avez raison.
Le récit d'Éric Zemmour serait le même, serait de « je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas ». Voilà, c'est le discours du Rassemblement national et
le récit,
du Front national.
Lui, son histoire en tant que candidat. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il veut proposer? Quels sont ses soutiens? Une présidentielle, c'est une histoire d'équipe aussi.
Alors, si on parlait à 15 jours aussi du scrutin, puisque nous sommes en politique, des études et des prétentions, est-ce qu'il y a une prime au sortant pour ces régionales? Juste en quelques mots avant de faire réagir nos...
Oui, très clairement, on dit souvent qu'on sort les sortants. Et globalement, dans les enquêtes de l'IFOP, les sortants s'en sortent. Aucun président sortant aujourd'hui n'est perdant de manière certaine. C'était pas le cas en 2004, en 2010, même s'il y a des vraies difficultés pour Renaud Muselier en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est vraiment le point de focal de cette élection régionale. Même chose peut-être en Bourgogne-Franche-Comté ou dans le Grand Est. C'est une élection, c'était assez drôle qu'on passe de la présidentielle au régional, où jamais une élection régionale a été autant un tour de chauffe avant l'élection présidentielle. C'était un petit peu le cas en 2015, mais tout était, je dirais, écrasé par les attentats du 13 novembre. On voit très bien d'une part une nationalisation des enjeux. Quelle que soit la région où l'IFOP travaille, on retrouve le quatuor ou le trio santé, délinquance, chômage. Et puis, beaucoup jouent gros sur cette campagne. À droite, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez ou Valérie Pécresse pour faire de cette élection un propulseur vers une candidature présidentielle. Et puis même, le Rassemblement national gagner à tout prix une ou deux régions pour s'enraciner comme l'adversaire numéro un d'Emmanuel Macron.
Et je reviens sur la nationalisation des enjeux et la place aussi de la majorité de La République En Marche, Amine El-Khatmi, dans ce scrutin-là, du gouvernement lui-même, avec 15 ministres envoyés sur le terrain. C'est aussi à double tranchant. Hein. C'est un investissement compliqué et pas forcément le meilleur calcul.
Le sentiment, le drame de la majorité, c'est qu'on a l'impression que dès que vous enlevez Emmanuel Macron de l'affiche, il n'y a plus rien derrière. Au municipal, ils se sont lamentablement plantés. Évidemment, la campagne d'Agnès Buzyn à Paris en a été une des illustrations les plus flagrantes. Là, on voit bien qu'au régional, il y a une stratégie qui est illisible parce que en PACA, il nous explique que face au risque du Rassemblement national, il faut absolument s'allier avec Monsieur Muselier. Et face à Monsieur Bertrand, où le risque Rassemblement
national dans le Nord,
est exactement le même et aussi fort, ils envoient 5 ministres, dont celui de l'Intérieur, la Justice, la ministre chargée des vaccins, celui chargé des PME, donc des ministres qui n'ont rien à faire en ce moment, pour aller essayer de faire trébucher un candidat à la présidentielle. Bon, tout ça n'est pas très sérieux, et la réalité, c'est qu'effectivement, derrière... Le problème, quand une majorité ne repose que sur un homme, c'est que tout dépend de lui. Les socialistes, ils se rattachent à une idéologie, même si aujourd'hui ils sont au plus bas. Les écologistes, ils se rattachent à un courant de pensée. Les communistes, pareil. La droite, vous avez une droite sociale, une droite gaulliste, une droite libérale. Ça renvoie à une histoire, ça renvoie à des personnages historiques, ça renvoie. Et même si ces forces politiques, de manière provisoire, peuvent être plus faibles à un moment ou à un autre, elles tiennent parce qu'elles ont une histoire avec le pays. Le macronisme, il porte bien son nom, il tient à Emmanuel Macron, et derrière, il n'y a pas grand-chose.
Je poserai la question à Aurore Berger, notre invitée. Est-ce qu'il s'appuie suffisamment sur les parlementaires, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il reçoit justement ses élus, ses passeurs aussi de ressenti? Bien, on en parlera. 18h50, petite pause, on vous retrouve, les grandes voix d'Europe 1.
Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Encore quelques minutes avec Laetitia Krupa, Amine El Khatmi du Printemps Républicain, Frédéric Dabi de l'IFOP autour de l'actualité du moment. Et Donald Trump nous intéresse et vous intéresse, Laetitia Krupa, silencieux depuis le mois de février. Il a donné son premier discours télévisé il y a quelques heures, laisse encore sa candidature future en suspens. Ce qui est sûr, c'est que son compte Facebook, pour le coup, a été suspendu et pour 2 ans. Ça, c'est le coup dur.
Oui, pour 2 ans, et ça pose toute la question après Twitter, hein, qui a aussi suspendu son compte, parce que c'était quand même l'arme fatale de Donald Trump de communication, c'était Twitter, avec 75 millions d'abonnés, Facebook suit, et en fait ça pose la question déjà de l'utilité d'une telle mesure, parce que Donald Trump, quand il a été battu à l'élection, il a dit « je reviendrai ». Ça, il ne faut jamais l'oublier, il est revenu là. Mm-hmm. Donc il a dit « je reviendrai », et si on me censure mes comptes sur les réseaux sociaux, je reviendrai ailleurs. On sait très bien qu'Internet est une toile en arborescence et qu'il peut réapparaître, alors avec un peu plus de difficultés, parce que ensuite il faut refédérer des soutiens, des gens qui vous suivent sur un réseau. Il faut faire connaître, mais Donald Trump a une force de frappe absolument massive et puissante. Donc il faut se méfier de cet homme-là qui est là et qui ne compte pas partir. Encore une fois, est-ce que c'est utile ou pas? Et quid de celui qui prend la décision? Parce que là, pour Facebook, c'est le conseil de surveillance qui est une instance indépendante et donc qui conseille Facebook. Alors dans cette instance, il y a 20 membres internationaux, des journalistes, avocats, des anciens dirigeants politiques, des défenseurs des droits humains, mais on n'a pas de nom. Mmh. Donc, est-ce que 20 personnes peuvent décider du sort d'un homme politique sur les réseaux sociaux? C'est quand même une question à laquelle il faut répondre avant, il me semble, de prendre ce type de décision radicale.
Ah oui, il y répond avec d'autres outils. En tout cas, il a fait son discours télévisé et bien il a sûr. Été largement suivi. Merci Laetitia Krupa. Amine El Khatmi, coup de cœur, coup de gueule ce soir?
C'est un coup de gueule, Wendy, en ce dimanche, après une déclaration littéralement hallucinante du patron de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui se trouvait sur un plateau de télévision et qui a déclaré ceci en parlant de la présidentielle. « Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Ça a été Mera en 2012, l'attentat sur les Champs-Élysées en 2017. » L'attentat sur les Champs-Élysées, il fait référence à l'assassinat de Xavier Jugelet, le policier qui a été assassiné effectivement à quelques jours de l'élection présidentielle de 2017. C'est surréaliste qu'un responsable politique de ce niveau sous-entende, parce que l'affaire est là, il sous-entend que Mohamed Merah en 2012 et Xavier Jugelet en 2017 sont finalement des opérations qui auraient été organisées par qui on ne sait pas, pour, d'après Jean-Luc Mélenchon, installer un climat sécuritaire autour de la campagne présidentielle et donc, de fait, favoriser des candidats de droite ou d'extrême droite. Sous-entendre qu'une tuerie antisémite comme celle de Toulouse, où on a abattu d'une balle dans la tête des enfants dans une école, sous-entendre qu'un policier qui a été achevé, assassiné par un terroriste islamiste, sous-entendre cela, quand on est un responsable politique, quand on est député, élu de la nation, quand on est de surcroît un homme intelligent, lettré, qui sait le poids des mots, qui sait le poids des sous-entendus, qui sait ce que ce genre de formule peut provoquer comme ravages et comme dégâts dans la population, sous-entendre ça, c'est la dernière des ignominies. Et le dégoût que m'inspire Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui à la hauteur du respect qu'il m'a inspiré il y a quelques années, parce que j'avais de l'admiration pour ce monsieur. Mais cette dérive, ce naufrage-là, est vraiment désolant.
Oui, ignominie, vous avez dit ces mots. Amine El Khatmi, ça peut s'apparenter à de l'incitation au crime.
Absolument.
Oui. Bon, eh bien, on suivra. Merci d'avoir insisté sur cette déclaration qui était peut-être pour certains passée inaperçue. Amine El Khatmi, Laetitia Krupa, Frédéric Dabi, merci beaucoup. Je vous laisse un petit tour.
Oui, c'était ça même. Il faut dire que ce type de déclaration est effectivement extrêmement étrange, participe de la dislocation d'image de Jean-Luc Mélenchon. C'est aujourd'hui dans le baromètre IFOP fiduciaire pour Paris Match, l'homme politique le plus rejeté par les Français avec Marine Le Pen. Et pour être factuel, en 2012, en 2017, en 2012 c'était avec Europe 1, on avait un rolling, une enquête quotidienne, et on avait vu que et le drame, les crimes de Mohamed Merah et l'assassinat de Xavier Jugelet n'avaient pas modifié fondamentalement les rapports de force électoraux, donc c'est faux même factuellement.
Merci Frédéric Dabi. Amine El Khatmi, Laetitia Krupa, les grandes voix d'Europe 1, et à tout de suite pour l'info.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Si vous nous rejoignez, c'est l'heure de l'info avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
19h au carillon d'Europe 1. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Passez le journal.
Même si on n'avait pas eu grand-chose à vendre, on serait venu quand même. Parce que première brocante, on recommence à vivre normalement. Et ça, ça fait du bien.
Avant la troisième étape du déconfinement cette semaine, c'était ce week-end le retour des braderies et des brocantes dans les rues de nos villes pour le plus grand bonheur de tous ceux qui aiment chiner.
Une joute verbale entre Bruno Le Maire et Marine Le Pen. Le ministre de l'économie critique sévèrement le Rassemblement national et le qualifie de petite chose.
L'affaire Air Cocaïne à nouveau jugée à partir de demain. La cour d'assises d'appel d'Aix-en-Provence devra découvrir si les deux pilotes français savaient qu'ils transportaient de la drogue.
Et puis l'annonce fracassante pour ses fans de la journée à Roland-Garros, Roger Federer déclare forfait avant son 8e de finale. Et on y revient largement dans le journal des sports avec Jean-François Pérez. Et à 19h40, Cédric Pioline et Corinne Boulot seront avec nous. 19h30, je recevrai dans Nos Essentiels Frédéric Becbédé qui publie sa bibliothèque de survie.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il a fait un temps magnifique en France aujourd'hui, un temps idéal pour retrouver vos braderies, vos brocantes qui, après de nombreux mois d'interdiction, ont pu à nouveau se tenir ce week-end.
Avec toujours un protocole sanitaire à respecter, comme dans les Hauts-de-France où le masque, le gel et le sens unique de circulation étaient obligatoires. Malgré tout, les habitants étaient heureux de chiner. Illustration à Douvrin, à côté de Béthune, dans le Pas-de-Calais, avec Maximilien Carrier.
Quel bonheur le retour des braderies, ça nous manquait beaucoup.
Annie, sac banane autour de la taille, est en train de déballer sa marchandise sur le trottoir. Des verres, des vinyles, des antiquités. Elle a vidé une partie de son garage.
Même si on n'avait pas eu grand-chose à vendre, on serait venu quand même. Parce que ça veut dire recommencer à vivre normalement. Première brocante, on recommence à vivre normalement. Et ça, ça fait du bien.
Renouer le contact, échanger, faire des bonnes affaires surtout. Bon, toujours avec les gestes barrières, bien sûr.
Voilà, je viens de manipuler les pièces, les vêtements. Et là, je lave les mains. Au gel hydroalcoolique.
Le gel qui est d'ailleurs obligatoire à l'entrée, des stands espacés, une jauge de 4 mètres carrés par personne, un protocole sanitaire assez lourd, comme l'explique Christophe, un des organisateurs.
C'est aussi compliqué à le gérer sur le terrain. Un simple exemple, notre brocante, eh bien, c'est un seul sens de circulation. Et ça, c'est compliqué parce que les gens, dans une braderie, c'est dur de leur dire « Non, écoutez, faites le tour de la rue pour revenir à l'entrée. »
Et puis, il y a le masque obligatoire également, une mesure assez contraignante pour certains bradeux qui ont un peu de mal à se faire comprendre quand il s'agit de négocier. Douvrin, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et cette semaine, troisième et avant-dernière étape du déconfinement en France. À partir de mercredi, le couvre-feu repoussé de 21h à 23h. Les salles de restaurants pourront à nouveau accueillir des clients. Réouverture également des salles de sport. Pour autant, attention au relâchement, Jean-Gabriel Bourgeois.
Voilà, il faut attendre mercredi pour retrouver encore un peu plus de liberté. Mais les autorités sanitaires alertent sur une baisse de la vigilance, notamment chez ceux qui viennent de recevoir leur première dose de vaccin. Écoutez ces Parisiens rencontrés par Lucas Bouguet.
Je pense qu'on se relâche, mais de manière intelligente. Bon, ça fait quand même un an qu'on est dedans, on aimerait bien s'amuser un petit peu, quoi.
Ça dure depuis trop longtemps, donc au bout d'un moment aussi, il faut juste vivre avec. On va pas rester se priver de sortir, avoir peur.
La situation épidémique continue pourtant de s'améliorer. Moins de 7000 nouveaux cas de Covid enregistrés hier. Mais pour Olivier Véran, invité ce midi sur BFM TV, pas question pour le moment de retirer le masque en extérieur.
Ce qui est sûr, c'est que jusqu'à la fin du mois de juin, au cours du mois de juin, on ne se pose pas la question de relâcher au niveau national le port du masque à l'extérieur. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on ne demandera pas aux Français de porter le masque à l'extérieur un jour de plus que ce qui sera nécessaire.
Olivier Véran se veut rassurant et constate une baisse de 20 à 25% de la circulation du virus chaque semaine, malgré la montée du variant indien. C'est pour cela qu'il faut rester prudent, martèle sur Europe 1 le professeur Rémi Salomon de la PHP.
Il n'est pas du tout impossible que dans les semaines qui viennent, il y ait à nouveau un peu de recirculation du virus. De nouveaux variants, de nouvelles mutations peuvent apparaître, qui pourraient même présenter un certain degré de résistance au vaccin.
Le variant indien poursuit doucement sa progression. Pas d'extension, mais uniquement des clusters, relativise le ministère de la Santé. 29 cas supplémentaires ont été recensés hier dans les Landes.
Jean-Gabriel Bourgeois, à la veille de cette nouvelle étape du déconfinement et dans le cadre de son Tour de France entamé cette semaine, Emmanuel Macron se rendra mardi à Valence, dans la Drôme, pour échanger avec des restaurateurs, mais également avec des élèves d'un lycée hôtelier.
Il est 19h05 et ce matin, Bruno Le Maire était invité du grand rendez-vous européen CNews, les Échos. L'occasion pour le ministre de l'économie de revenir sur plusieurs points et également de tacler Marine Le Pen.
Oui, mise au point importante concernant la réforme des retraites. Elle reste une priorité. Autre précision sur la fin progressive des aides de l'État aux entreprises touchées par la crise. Bruno Le Maire estime qu'il n'y a pas eu de casse sociale. Il ne croit pas en une vague de faillite. Et puis interrogé sur les régionales et le risque d'une montée en puissance du Rassemblement national, le ministre de l'économie a taclé le parti de Marine Le Pen, ce qui a donné lieu à une joute verbale, Hélène Terzian.
Oui, une joute verbale par antenne interposée. Ce matin sur Europe 1, c'est Bruno Le Maire qui lance les hostilités. Le ministre de l'économie charge violemment le parti de Marine Le Pen en décrédibilisant le Rassemblement national.
Le Front National, ça n'est pas grand-chose. Ça n'est pas un grand parti. Ça n'est pas des grandes personnalités. C'est le parti du rétrécissement et de la capitulation. Et qu'on veuille se rétrécir toujours plus parce qu'on a des difficultés, ça peut se comprendre. Mais ne faisons pas du Front National ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un grand parti est un grand avenir pour le pays. C'est une petite chose.
La contre-attaque de Marine Le Pen ne se fait pas attendre. Invitée chez nos confrères de RTL, la patronne du RN, créditée de 46% au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron, répond au ministre.
Je pense que Bruno Le Maire exprime là le mépris qui est le marqueur de la Macronie. Un mépris absolument total. Peut-être pense-t-il que les Français sont aussi des petites gens. Moi, je considère que c'est un grand peuple. C'est ce qui fait fondamentalement la différence entre moi et Emmanuel Macron.
Marine Le Pen qui se laisse aller au pronostic pour les régionales. Je pense, dit-elle, que LREM enregistrera les pires résultats de l'histoire des élections régionales pour un parti au pouvoir.
Hélène Terzian.
On est justement à 2 semaines du premier tour des régionales et pour assurer la République en marche d'un bon score, vous le savez, Emmanuel Macron, c'était en tout cas sa stratégie, a dépêché 15 ministres sur les listes.
Oui, cela fait presque un tiers des membres du gouvernement. Emmanuel Macron fait le pari que leur présence permettra de déjouer les mauvais sondages. Louis de Raguenel, est-ce que c'est une stratégie gagnante pour le moment ?
Pas vraiment. En fait, si on regarde les sondages, on a du mal à voir l'effet de la présence de ministres sur les listes régionales. Par exemple, dans le Nord, où Xavier Bertrand est favori, on compte face à lui pas moins de 5 ministres sur la liste La République En Marche. Et un constat, depuis l'arrivée en fanfare d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, eh bien on n'observe aucun effet sur les intentions de vote. En clair, Dupond-Moretti n'a pas permis d'inverser les mauvais sondages. En Ile-de-France, même dispositif, 5 ministres candidats sur la liste de Laurent Saint-Martin. Malgré une très légère hausse observée ces dernières semaines pour cette liste, eh bien, la candidate de droite, Valérie Pécresse, apparaît de plus en plus comme indétrônable. Seule une région échappe à ces mauvaises prévisions pour Emmanuel Macron. Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement, a une chance de remporter la région Centre-Val de Loire. À noter une particularité pour ce ministre, c'est un élu local, très bien implanté dans sa région. Une illustration de plus du besoin d'Emmanuel Macron de rallier à lui des barons locaux.
Louis de Raguenel du service politique d'Europe 1.
Alors, comment défendre cette stratégie dans la majorité ? Notre invitée est députée, porte-parole de la majorité justement à l'Assemblée nationale. Elle nous dira aussi ce qu'elle ressent du terrain. Aurore Berger nous rejoint dans 10 petites minutes sur Europe 1.
Europe Soir Weekend.
Il est 19h08 avec Sophie Tussaud pour le journal. Vous restez avec nous et on parle dans un instant du procès en appel sur l'affaire Air Cocaïne et puis nouvelle manière de faire du sport. Vous l'entendrez, nous irons du côté de Mandelieu. Anna Poule, à tout de suite.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Et Sophie Tussaud pour vous informer, 19h10 sur Europe 1. L'affaire Air Cocaïne revient devant la justice demain avec l'ouverture du procès en appel des 2 pilotes français et de 4 autres personnes devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, Sophie.
Tous sont accusés d'avoir organisé un trafic de drogue entre la France et l'Amérique du Sud. Ils avaient été arrêtés en mars 2013, juste avant de décoller de l'aéroport de Punta Cana en République dominicaine, avec à bord de l'appareil 700 kilos de cocaïne. En première instance, les 2 pilotes avaient été exfiltrés spectaculairement par un commando depuis Saint-Domingue, avaient été condamnés à 6 ans de prison pour trafic de drogue transatlantique. Et cette fois, Justin Morin, la même question va se reposer. Savait-il ce qu'il transportait ?
Oui, effectivement, et les 2 pilotes se présenteront à nouveau devant les juges demain sans changer de version. Ils sont innocents, ils ne savaient rien. Sauf qu'en première instance, ils n'ont pas convaincu. Pour leur verdict, les magistrats se sont principalement appuyés sur les éléments d'un premier vol effectué en décembre 2012 entre la République dominicaine et Saint-Tropez. Et déjà à bord, le chargement de valises suspectes, cabossées et boueuses, auquel a même participé l'un des 2 pilotes. Scénario identique pour ce second vol, le 19 mars 2013, intercepté par les autorités dominicaines, avec 26 valises valise anormalement lourde. Les juges ont estimé que les deux pilotes ne pouvaient pas ne pas savoir. Pour leur avocat, Maître Antoine V, ça n'est pourtant pas suffisant pour les condamner.
Non seulement il incombe pas aux pilotes de surveiller ou de contrôler le contenu d'éventuels bagages dans leurs aéronefs, mais également que, en ce qui les concerne, leur participation à un quelconque trafic paraît irréelle. Ce sont des gens stables qui sont des militaires plusieurs fois décorés, et l'idée même qu'ils puissent avoir pris part à une quelconque activité criminelle leur est insupportable.
Le commanditaire présumé du trafic a lui écopé de 18 ans de prison en première instance. Il continue de clamer son innocence.
Justin Morin.
19h12 sur Europe 1, et on parlait tout à l'heure de la troisième étape de déconfinement, la réouverture des salles de sport, notamment mercredi, qui ira avec la réouverture des restaurants en intérieur et le couvre-feu à 23h. Mais si l'avenir, Sophie Tussaud, nous proposait de faire du sport tout autrement?
Oui, comme par exemple être en extérieur face à un écran et avec un coach virtuel. La municipalité de Mandelieu teste le concept. Elle a installé une borne tactile interactive proposant 3 séances de 15 minutes avec des niveaux différents. C'est une première en France. L'équipement a été conçu par la société Airfit et notre correspondant sur la Côte d'Azur, Frédéric Michel, a testé pour nous.
Un bouton qui nous permet d'avoir le sommaire. On choisit son niveau, 3 niveaux différents. C'est que du visuel.
Pas de son, mais un coach musclé pour vous entraîner devant l'écran qui ressemble à un smartphone géant. Ces deux ados sont séduits.
C'est unique de voir un écran comme ça qui nous fait faire du sport.
Et c'est gratuit, c'est très bien.
Bah, ça échauffe bien. Bon, quand même, il faut bien respirer.
Pour cet équipement, la municipalité a investi environ 20 000 euros. Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu-la-Napoule.
Alors, c'est une première en France, donc c'est le premier écran. D'autres vont venir rejoindre la station Airfit. Chaque station sera équipée de un ou plusieurs écrans. Ça sera toujours gratuit. Ça vous permet, quelle que soit l'heure, de venir, d'avoir un accompagnement selon votre niveau de pratique sportive et d'avoir un guide qui vous montre les bons gestes, les bonnes cadences, les temps de repos.
Et les habitants sont prêts à tester.
D'avoir ça à l'extérieur, en plus avec ce paysage qui est quand même extra, ça me donne envie de faire du sport et ça donne envie de bouger.
Ça aide pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et pour ceux qui ne connaissent rien du tout, ils peuvent apprendre tout en regardant la vidéo, quoi.
Et pour les exercices, la station Airfit est équipée d'un banc de musculation. Mandelieu, Frédéric Michel, Europe 1.
Et puis un dernier mot pour vous dire que Boris Johnson a adressé ses félicitations, Prince Harry, à son épouse Meghan Markle. Le couple a annoncé ce soir avec une joie immense la naissance de leur deuxième enfant. Vendredi matin à Santa Barbara en Californie, une petite fille, Lilibet Diana, en hommage à la reine Elizabeth et à la princesse Lady Di.
Bien
oui,
sûr,
exactement.
Merci,
avant de vous laisser, Wendy, juste un dernier petit mot pour vous dire que Serena Williams a été éliminée en 8e de finale de Roland-Garros. C'est Jean-François Pérez dans le Journal des Sports. Il revient tout de suite.
Et voilà, quelle cohérence d'antenne. À tout de suite. Merci beaucoup Valérie Darmon. Le ciel de nos régions, c'est de mieux en mieux. Profitons-en.
Tout à fait, et de plus en plus beau. On se dirige vers l'été à grands pas. Des côtes de la Manche à la Nouvelle-Aquitaine, Pyrénées, bassin parisien, centre, vous profitez du beau temps et des valeurs jusqu'à 28 dans les Landes. De la Lorraine et de l'Alsace au Jura et à Rhône-Alpes, atmosphère instable et toujours orageuse, notamment en montagne. Des Ardennes à l'Auvergne, les nuages bas présents se morcellent, laissant apparaître de belles plages ensoleillées en milieu de journée. Et l'après-midi, les cumulus se développent, pouvant laisser échapper une petite onde, voire un coup de tonnerre en montagne. Et puis près de la Méditerranée, il fait beau, excepté en Côte d'Azur et en Corse, où vous pourriez toujours avoir quelques ondées orageuses dans l'après-midi, exactement comme ce dimanche. Mais il fera à vos thermomètres 28 à 30.
Merci, bien noté Valérie Darmon, 19h15.
Europe Soir Weekend.
Toute petite pause avant le journal des sports et nous irons du côté évidemment où nous sommes d'ailleurs dans ce studio Europe 1, Roland-Garros avec les deux informations du jour, le forfait de Roger Federer et à l'instant en effet l'élimination de Serena Williams en 8e de finale. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Et l'actu sportive sur Europe 1, 19h17, c'est à vivre d'abord Porte d'Auteuil.
Roland-Garros 2021, l'événement tennis est sur Europe 1.
Et elle a été éliminée il y a quelques minutes, Serena Williams, en 8e de finale. Jean-François Pérez.
Oui, absolument. Il ne fait pas bon avoir 39 ans hein, sur les cours de Roland-Garros.
Pas pour d'autres circonstances, oui, mais sur terre battue, non.
Et pas aujourd'hui, en tout cas. Elle était, oui. On le disait il y a une heure, à la recherche de sa 24e victoire en Grand Chelem. Et Axel May, les années passent, la terre battue n'aide pas. Et puis son adversaire, qui a fait un match excellent non plus.
Eh bien non, c'est pas cette année qu'elle remportera son 24e titre du Grand Chelem. Elle qui court après depuis son titre à l'Open d'Australie en 2017. Elle a eu elle a fait au revoir à la foule qui était là pour lui ce dernier adieu. Je ne sais pas si c'est son adieu, mais en tout cas un au revoir. Éliminée en 2-7 par Rybakina, la jeune russe qui est devenue kazakh. 6-3, 7-5 pour Rybakina en un peu plus d'une heure et quart de jeu. Autrement dit, ça a été presque un match à sens unique, même si elle a tenté de réagir, Serena Williams, dans le deuxième set. Elle s'arrête là, elle qui va avoir bientôt 40 ans, alors que Rybakina a 18 ans de moins. Autrement dit, avec Federer qui part, il n'y a plus les deux stars légendes du tennis à Roland-Garros.
Les deux doyens, absolument. Merci Axel. Dans le tableau masculin, on connaît l'affiche du premier quart de finale masculin. Ce sera Tsitsipas face à Medvedev. Et puis, Wendy, sachez également qu'on a chanté la Marseillaise cet après-midi à Roland-Garros. Oui, oui, on dit il n'y a plus de Français, il n'y a plus de Français, mais il y a encore des Français en double. Oui. La paire Mahut-Herbert qui s'est qualifiée pour les quarts de finale du double avec un public qui était en feu.
Mais oui, une de nos grandes voix, Amine El-Khatmi, était là-bas, il a chanté la Marseillaise.
Il s'est régalé aussi.
Il nous en avait témoigné. 19h19, alors bon, vous avez raison, on ne parle que de ça à Roland-Garros, c'est pas fini. Roger Federer s'est retiré du tournoi.
Oui, bientôt 40 ans, opéré deux fois du genou en quelques mois. Il ne veut prendre aucun risque, le Suisse, avant Wimbledon, c'est son objectif numéro un. Alors on peut le comprendre après son marathon vainqueur cette nuit contre l'Allemand Kupfer, mais Federer ne s'était jamais retiré d'un grand chelem et du coup, ben, c'est légitimement la soupe à la grimace. L'ancien joueur et médaillé olympique français Arnaud Di Pasquale, surpris et déçu d'avoir peut-être vu Federer pour la dernière fois à Roland-Garros.
C'est un coup dur pour le tournoi, parce qu'on sait combien les Français et le tournoi de Roland-Garros est heureux et fier en fait d'avoir Federer sur le tournoi. Donc on le voit passer trois tours, on le voit bien jouer, on le voit se battre, s'accrocher, mais on sait en même temps qu'il est dans un moment très difficile, avec une reprise, avec la difficulté d'enchaîner les matchs. Mais j'avoue que je n'avais pas imaginé cette possibilité. J'imaginais quand même qu'il serait sur le terrain et qu'il jouerait contre Berrettini. Donc ouais, c'est un peu le choc, un peu la surprise. On est très déçus. Ouais. Enfin, je suis très déçu.
Le sentiment général résumé par Arnaud Di Pasquale ce soir, il était avec Axel May.
Le tennis, on y revient à 19h40 et puis à 20h évidemment sur Europe 1. Le foot maintenant avec un moment symbolique cet après-midi à Colombelles et Deux Églises. On a inauguré le premier stade Charles de Gaulle en France.
Oui, il y avait de nombreuses personnalités du foot français qui avaient fait le déplacement autour du Variété Club de France. Il y a Michel Platini, Arsène Wenger, Bichente Lizarazu et puis un autre champion du monde 98, Laurent Blanc, actuellement entraîneur au Qatar. Il est peu bavard d'habitude, mais là il a fait un petit effort et il a dit à Cyril de la Morinerie pourquoi il était important d'être présent aujourd'hui.
La journée, la visite du lieu où le général a vécu, c'est un moment important. Donc voilà, le mouvement aussi qui a permis à la France de retrouver sa liberté, donc c'est important, c'est un moment historique. Il faut transmettre un petit peu ça. Il y a des jeunes joueurs, il y a des jeunes personnes qui ont entendu parler du général de Gaulle, mais qui comprennent peut-être pas ce qu'il a fait. Pour moi, c'était important d'être là aujourd'hui.
Voilà, Laurent Blanc, et sachez également que Didier Deschamps, son compère, le sélectionneur des Bleus, sera l'invité de la matinale d'Europe 1 demain, 7h40.
C'est noté, l'histoire, et puis l'histoire du sport avec les légendes, le studio des légendes à partir de 20h. Bonsoir Lionel.
Bonsoir
Rousseau.
Wendy.
Ici en duplex de Roland-Garros, on parlera justement de l'équipe de France de foot à quelques jours du début de l'Euro.
En effet, dans 5 jours, l'Euro, ce sera à suivre évidemment sur Europe 1, et parmi les thèmes choisis avec nos légendes, on se demandera pourquoi l'équipe de France fait partie des favoris, peut-être même que les Bleus sont les seul grand favori, si on sonde en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Italie, c'est ce que l'on a fait dans nos émissions. Tout le monde, depuis le retour de Benzema aux côtés d'Mbappé, désormais maintenant et Griezmann, tout le monde voit les Bleus favoris. Est-ce une bonne chose ? Est-ce un piège dans lequel les Français vont tomber ? On en parlera avec les légendes, Fabien Antoniente, Guy Roux, Thierry Bretagne et Cédric Pioline qui sera là.
Fabien Antoniente, réalisateur qui est amoureux d'Europe 1, qui est venu nous faire un petit coucou d'emblée. Merci Lionel Rousseau à partir de 20h donc sur Europe 1. Merci Jean-François Pérez pour cette actu des sports.
Europe Soir Weekend.
Dans un instant, nous sommes au plus près des valeurs du sport, l'engagement, le dépassement, aussi en politique, elle qui nous accompagne à Roland-Garros, la députée La République En Marche, Aurore Berger, qui scrute la dynamique des régionales, aussi et le pays, à 15 jours du premier tour. A tout de suite.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Merci d'être fidèle à Europe 1, direct de Roland-Garros. C'est 19h24, à 15 jours du premier tour des régionales. Je reçois une femme engagée, porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale, elle-même députée des Yvelines. Bonsoir Aurore Berger.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous à Roland-Garros pour venir dans ce studio. Vous avez dû présenter un sésame, c'est très réglementé. Vous attendez avec impatience, j'imagine, le pass sanitaire. Ce sera mercredi, ça va faciliter la vie de chacun en toute sécurité.
Oui, je crois que c'est l'objectif, c'est-à-dire qu'on a tous envie, on aspire tous tout simplement au retour à la vie normale. La vaccination le permet, le facilite grandement et on le voit bien avec cette dynamique de vaccination qui progresse vraiment de jour en jour. Mais ce pass sanitaire, c'est aussi tout simplement la capacité que des lieux qui sont encore clos puissent tout simplement être rouverts avec aussi une sécurité sanitaire pour les Français. Et puis le pass sanitaire européen, qui est aussi essentiel pour que tout simplement on puisse à la fois rouvrir nos frontières, mais le faire là encore en toute sécurité, à la fois pour les Français qui pourront aller à l'étranger, mais aussi pour celles et ceux qu'on va pouvoir accueillir en France.
Ça va faire forcément débat dans les familles, il y a toujours aujourd'hui un ou deux parents qui hésitent à se faire vacciner, donc voilà, pour faire partie aussi de cette dynamique-là, il faudra qu'ils s'y résolvent.
Oui, mais je crois surtout que les Français au tout début, on parlait beaucoup de ceux qui étaient réticents à la vaccination, et aujourd'hui on parle surtout de l'impatience à pouvoir se faire vacciner, et on a vu qu'on a progressivement, en permanence, élargie. Mais on l'a fait aussi de manière très raisonnée, volontairement. Les personnes qui étaient d'abord les plus vulnérables, donc les personnes aussi les plus âgées. Et puis progressivement, on a étendu jusqu'aux adolescents qui vont pouvoir bientôt bénéficier de la vaccination. Ça a permis aussi de ne pas complètement engorger nos centres de vaccination, de réguler les choses et puis que ce soit beaucoup plus accepté par la population. Et moi, je me réjouis que par rapport vraiment au tout début de la campagne vaccinale, on disait cette campagne va échouer, ça ne fonctionnera pas, les Français n'adhéreront pas au fait de se faire vacciner, eh bien c'est un phénomène tout autre qui s'est passé.
Autre bonne nouvelle, et on peut s'en réjouir ensemble aussi, le constat que fait Bruno Le Maire dans le JDD aujourd'hui sur Europe 1 ce matin, l'économie française repart. Il se félicite d'avoir protégé l'économie française d'ailleurs.
Mais ça c'est évidemment quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire que quand on a dit le quoi qu'il en coûte et le temps qu'il faut d'ailleurs...
Le concret on l'a aujourd'hui.
C'était ça, c'est-à-dire c'est tout simplement que quand aujourd'hui vous vous baladez dans les rues de France, vous n'avez pas porte close dans nos commerces, vous n'avez pas les restaurants, les bars qui ont dû fermer, tout simplement parce qu'ils ont été accompagnés, soutenus. Ils continuent d'ailleurs à l'être tant qu'ils ne peuvent pas rouvrir à 100% de leur capacité. Ça veut dire que vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez aller au théâtre. Dans combien de pays au monde vous avez un tel maillage, par exemple culturel, qui a pu survivre, de commerces de proximité, de bars, de restaurants, tout simplement parce qu'il y a eu un accompagnement financier de l'État, non seulement pour nos entreprises, mais aussi pour protéger nos emplois. Je crois que les Français, ils avaient aussi envie de ce retour à la vie normale et aussi de réinvestir ces lieux-là.
Il leur demande aux Français, d'ailleurs, de soutenir ces secteurs les plus malmenés, parce que quand même beaucoup, hélas, sont tombés. Mais il y a cette ère de renouveau, vous avez raison, Aurore Berger, qui fait du bien. Et puis, il y a l'appel du terrain, ce terrain que vous retrouvez en circonscription chaque week-end. Les citoyens que vous croisez, sont-ils las, sont-ils en colère, Aurore Berger ?
Je crois que tout le monde aspirait à un retour, encore une fois, à la vie normale. Et le retour à la vie normale, c'est maintenant. C'est tout simplement pouvoir retrouver les siens, pouvoir retrouver sa famille, pouvoir retrouver ses habitudes. Et on a vu nos habitudes être profondément transformées. On a vu à quel point des sacrifices ont aussi été demandés aux Français, aux plus jeunes, notamment à nos adolescents, à ceux qui sont étudiants, qui n'ont pas vécu des années tout à fait normales. Passer son bac à l'ère du Covid, c'est pas quelque chose de si évident. Pareil, quand on fait ses études, quand on a sa première année à l'université. Et je crois que c'est ça ce qui était vraiment attendu. Donc aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est en fait on a réussi à tenir ensemble. Et parce qu'on a réussi à tenir ensemble, ben en fait, ça va mieux. Le pays va mieux. Est-ce que ça veut dire qu'on est complètement sorti de cette phase sanitaire ? On voit bien que non, qu'il faut rester très vigilant, qu'il n'y ait pas de relâchement. Mais oui, on a le droit aussi parfois de se dire que ça peut aller mieux.
Oui, mais vous connaissez par cœur la politique, Aurore Berger. L'effet loupe sur le Rassemblement National, ce n'est qu'un effet loupe ou c'est une réalité que vous, vous remontez aussi régulièrement comme parlementaire ?
Vous savez déjà, moi le Rassemblement National, je ne le vois jamais. Je ne le vois jamais sur le terrain. On est en pleine campagne régionale et départementale.
Peut-être pas sur votre circonscription.
Ah, mais pas que sur la circonscription. Vous savez, le département des Yvelines, il est extrêmement contrasté. Il est aussi très urbain que très rural. On ne les voit jamais. Ce sont des gens qui ne sont pas des élus de terrain. Les conseillers régionaux du Rassemblement National, ils ne sont jamais sur le terrain.
Et oui, je vous parle des électeurs qui seraient tentés par eux.
Oui, mais les électeurs doivent aussi savoir, quand on prétend en permanence défendre les Français, il faut aussi être au bon moment pour les défendre. Il faut aussi être sur le terrain pour les défendre. Il ne faut pas uniquement être dans la petite phrase, il ne faut pas uniquement être dans la dénonciation. Et ce qui se passe en ce moment avec le Rassemblement National, il y a deux choses. Un, ils ne font pas campagne autrement qu'une campagne médiatique. Deux, quand on regarde précisément celles et ceux qui sont investis, eh ben on se rend compte que le Rassemblement National, c'est la même chose que le Front National, c'est-à-dire une extrême droite, très claire. Il y a pas, enfin, regardez là tout ce qui est sorti sur leurs candidats au départemental ou au régional. Nous, en Ile-de-France, on a cinquième de liste à Paris, quelqu'un qui, au lendemain des attentats ou qui, au lendemain, par exemple, de l'assassinat de Sarah Halimi, considérait, je cite, qu'il y avait des pleurnicheuses de la Shoah. Voilà quels sont les candidats du Rassemblement national. Ce sont des candidats d'extrême droite, donc c'est pas daté que de dire ça. C'est malheureusement aujourd'hui, en 2021, ce qu'ils continuent à présenter et à investir.
Mais alors la stratégie est de la majorité. On envoie 15 ministres dans le Nord, on a les mêmes enjeux dans le Sud et on retire la liste de la majorité. Comment les électeurs peuvent se retrouver aussi dans ce jeu aujourd'hui qu'on a du mal à suivre ?
Non, mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de clarté. Et ça, je crois que c'est ce que les Français attendent de nous.
Manifestement, oui.
Quelle est la politique que l'on mène au niveau national, au niveau régional, et quelle est la clarté que l'on doit aux électeurs.
Sinon, c'est l'abstention, et vous le savez.
Sinon, c'est le risque de l'abstention ou le risque du Rassemblement national. Ce qui s'est passé en région PACA, c'est un vrai choix de dire, à partir du moment où le risque est trop important que le Rassemblement national puisse gagner, alors oui, on préfère immédiatement travailler ensemble plutôt que de prendre ce risque-là. Et je crois que ça, c'est de la clarté. D'ailleurs, on est les seuls à dire que dans la moindre région, s'il y a un risque que le Rassemblement national puisse l'emporter, on est prêt, nous, à se désister. C'est-à-dire sans aucun marchandage, en fait. Mm-hmm. Où il n'y a pas de marchandage électoral qui vaille quand il y a principe. Le Rassemblement national. Moi, j'attends de voir que cette même discipline puisse s'appliquer aux Républicains. Mais enfin, clairement, on voit bien que les digues sont en train de sauter partout avec les LR. Mm-hmm. On le voit dans les idées qu'ils défendent. Guillaume Pelletier, quand même, il vient de l'extrême droite, donc quelque part, c'est pas anodin que ce soit lui qui en soit aujourd'hui le numéro 2 au sein des Républicains, mais aussi les digues, quand on voit...
Donc quand elle parle, pardon, de corps national, Marine Le Pen, ce matin, elle cherche à englober de manière assez stratège.
De fait, ça existe déjà.
Ce camp-là.
De fait, ça existe déjà. Encore une fois, vous avez une élue ce matin, et qui n'est pas anodine, vice-présidente d'un conseil départemental, qui vous dit, mais enfin, qui nous a demandé de refuser de parler avec l'extrême droite ? Moi, je ne sais pas pourquoi il faudrait refuser de parler avec l'extrême droite. Ok, donc en fait, pour un certain nombre de personnes qui s'appellent encore les Républicains, parler à la majorité présidentielle est devenu plus infréquentable que de parler à l'extrême droite. Donc cette clarté-là, il faut qu'elle soit posée au moment des élections régionales et que les Français sachent que le choix qu'ils ont à faire,
oui,
c'est aussi malheureusement, quand ils votent LR, d'assumer de voter pour des gens qui ont rompu un certain nombre de digues avec le Rassemblement national.
Un dernier mot, Aurore Berger. Emmanuel Macron est reparti en campagne sur le terrain, mais vous y êtes régulièrement depuis 4 ans maintenant. Est-ce qu'il écoute suffisamment ses parlementaires ? On parlait des élus qui n'ont pas été assez écoutés avant les Gilets jaunes. Est-ce qu'il vous écoute assez ? Il vous reçoit ?
Bien sûr. On est reçu régulièrement par le président de la République et on est une majorité. Évidemment, on travaille au quotidien avec le président de la République et avec le Premier ministre. Il est de facto...
Donc il n'est pas coupé de sa base, de sa majorité,
non,
Emmanuel Macron.
Sûr que non. Et vous voyez bien d'ailleurs dans la manière avec laquelle on travaille qu'un certain nombre de propositions de loi, c'est-à-dire qui émanent profondément de la majorité présidentielle, ont pu aboutir. On en a parlé sur plein de sujets. Sur une meilleure protection des droits des femmes, sur le renforcement de l'IVG, sur la lutte contre la maltraitance animale, sur beaucoup de sujets. C'est parce que c'est venu des parlementaires que ça aboutit.
Merci Aurore Berger d'avoir été avec nous dans ce studio d'Europe 1 à Roland-Garros à 15 jours du premier tour des régionales. Merci beaucoup.
Merci.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
A tout de suite avec notre essentiel qui nous rappelle l'urgence de la lecture, qui revendique les failles des auteurs et la nécessité d'introduire de la légèreté dans le tragique. Frédéric Becbédé nous rejoint avec sa bibliothèque de survie. Et c'est l'essentiel de l'info, Sophie Tussaud.
La réforme des retraites reste une priorité, déclaration de Bruno Le Maire, invité ce matin du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Sans s'exprimer sur un report de l'âge légal de départ, le ministre de l'économie plaide pour un volume global de travail plus important. Le port du masque restera obligatoire en extérieur durant tout le mois de juin, déclaration d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui met en garde les personnes vaccinées contre un relâchement des gestes barrières. Jean-Yves Le Drian va se rendre cette semaine au Burkina Faso, déplacement du chef de la diplomatie pour exprimer la solidarité de la France après l'attaque la plus meurtrière dans le pays depuis 2015. 160 personnes ont été tuées vendredi soir dans le nord-est du pays. En Allemagne, nette victoire des conservateurs face à l'extrême droite dans un scrutin régional crucial. Un succès rassurant pour le chef du parti avant les législatives de septembre. Et puis le prince Harry et Meghan Markle annoncent la naissance de leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Lilibeth Diana.
Merci Sophie Tussaud, tout à l'heure 20h sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard, Les Essentiels.
Et notre essentiel ce soir a été indigné par la manière dont l'État a classé le livre et la librairie au premier confinement, non essentiel donc. Les politiques ont depuis tiré des leçons de ce faux pas, ce qui ne vous empêche pas de publier. Bonsoir Frédéric Becbédé.
Bonsoir.
Votre bibliothèque de survie aux éditions de l'Observatoire, un précis du roman du XXIe siècle, vous diriez une forme de guide littéraire à destination du citoyen avide ou du lecteur égaré ?
Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il faut. C'est intéressant de faire des bilans. Mmh. Ça m'a toujours plu et régulièrement je le fais. Tous les 10 ans, je fais un livre comme ça avec un peu un top 50 subjectif.
Oui.
Et je trouve que là, on est en 2021. Quand on pense qu'en 1921, c'était la révolution dans tous les arts, c'était vraiment une période de grande créativité. Aujourd'hui, c'est intéressant de voir ce qui se passe de neuf en littérature. Il y a des choses très nouvelles. Mais il y a aussi un peu un ronronnement et une tendance à une littérature Xanax qui m'ennuie profondément.
Oui, ils ne sont pas dans la liste, en l'occurrence.
Non, ils ne sont pas du tout.
C'est ça l'intérêt avec vous, Frédéric Becbédé.
C'est un ouvrage de combat.
Voilà, et que ces listes de livres vous ressemblent, évidemment. On y trouve Kundera, Sylvain Tesson, Virginie Despentes, Romain Gary, Colette, je vais y venir, et puis des très contemporains. Mmh. Ce sont ces livres, en tout cas, qui fondent pour vous notre esprit français, notre roman national, parce qu'il y a beaucoup de Français francophones.
Oui, bien sûr, il y a même Le Malade imaginaire de Molière.
Bien sûr, il est là, Molière.
Qui est quand même la pièce qui résume ce qu'on vient de vivre depuis 16 mois. Mm-hmm. Oui, il y a un esprit français à défendre, c'est vrai, une liberté d'expression. On a une littérature dont on peut s'enorgueillir, parce qu'elle est très riche, y compris chez les auteurs contemporains, et ça m'intéressait de mélanger les morts et les vivants.
Oui.
C'est très important. On ne va pas attendre que les gens soient décédés pour les aimer.
Mais c'est très bien. Tout en mettant en garde, un bon livre, dites-vous, ne donne pas de leçons. Peu importe d'ailleurs la morale de l'auteur, ses mœurs, c'est là, une fois de plus, vous êtes catégorique, Frédéric Becbédé, on doit décorréler les œuvres de la vie criminelle de leurs auteurs infréquentables. Une de vos formules.
Mais oui, vous mais le dites. C'est-à-dire, je pense que si on demande à tous les auteurs d'être gentil, on va beaucoup s'ennuyer. Les artistes ont presque un devoir d'avoir d'avoir une mauvaise vie. C'est pas forcément. C'est malheureusement les artistes ne sont pas des gens exemplaires. Très souvent, il y a des salauds qui ont écrit des chefs-d'œuvre. Il vaut mieux peut-être séparer les deux. Et quand on est critique littéraire, ce qui est mon cas, ne juger que sur les livres et pas sur les saloperies des uns et des autres qui, par ailleurs, relèvent de la justice et de la police.
C'est ça, voilà, laissons à chaque chose sa matière. Oui. Le pur et l'impur, d'ailleurs, c'est un livre qui figure en bonne place en numéro 1 de votre sélection. Ce recueil de portraits décadents que Colette publie à partir de mai 1932 et qui rend hommage aux dépravés qu'elle fréquenta dans sa jeunesse, puisqu'il est le numéro 1 de cette liste. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, plus résumé que vous nous l'écrivez, ce qui vous bouleverse dans cette œuvre, ce qui vous touche en tout cas?
Bon, c'est d'abord le style, parce que Colette, c'est vraiment une écriture d'une simplicité, d'une limpidité, d'une grande pureté, justement, comme ce titre, Le pur et l'impur. Mais ce titre, en même temps, résume une guerre qui a lieu aujourd'hui, avec deux camps aussi stupides l'un que l'autre. C'est-à-dire le camp de la purification, qui veut que tout le monde soit parfait, tout le monde soit aseptisé. Et puis le camp qui prône la décadence ou qui prône le pessimisme, les deux ont tort, à mon avis. Et ce qui me plaît chez Colette, c'est qu'elle refuse de choisir entre ces deux camps. Elle trouve qu'on doit regarder le pur et l'impur, parce que ce sont deux choses humaines qui sont en nous, et que voilà, c'est ce qui compte, c'est de décrire une réalité, pas d'essayer forcément de changer le monde quand on est un écrivain.
Frédéric Becbédé est avec nous ce soir dans nos Essentiels sur Europe 1. Vous reprenez finalement aussi l'esprit de la citation de Philippe Solers. La littérature n'est pas là pour dire le bien, elle alerte. C'est-à-dire qu'elle nous rend de fait curieux, vigilants du moins, Frédéric Becbédé.
Moi, je suis pour que le bien triomphe du mal. Hein, ne nous méprenons pas. Je suis dans la vie quelqu'un de moral, comme tout le monde.
Politiquement parce
que...
correct.
Oui, je pense que c'est important de le rappeler. On est tous politiquement corrects. Parce que la plupart d'entre nous, on n'est pas raciste, pas antisémite, pas homophobe et pas sexiste. Mm-hmm. Je l'espère, en tout cas. On essaie de faire en sorte que ce monde soit vivable. Mais dans la littérature, c'est plus compliqué. La littérature, elle peut aussi plonger au cœur de l'enfer, montrer le mal, montrer des horreurs, et au contraire, nous ouvrir les yeux sur tout ce qui ne va pas. Mmh. On ne lit pas un livre comme on prend un antidépresseur, si vous voulez, voilà.
Il y a la nécessité de témoigner, et ces témoins sont présents dans votre ouvrage, cette bibliothèque de survie, Dany Laferrière, au cœur de ce drame haïtien, la nécessité de dire, de montrer. Oui. Et puis l'élégance, j'aime beaucoup cette formule que vous employez, l'élégance du catastrophé, avec Chris ou avec Philippe Lançon, évidemment, et son lambeau. Et comme vous égrenez la liste en pensant à la confession politique de Coco, vous dites qu'il y a quasiment une école Charlie Hebdo de l'écriture post-traumatique aujourd'hui.
Oui, c'est fou parce que, bon, ça a toujours existé. Il y avait des vétérans des différentes guerres mondiales qui ont écrit des chefs-d'œuvre. Mmh. Mais bon, là, voilà, dans une pièce assez étroite, il y a eu cette tragédie. Et quasiment tous ceux qui étaient présents ce jour-là ont écrit de grands textes. Et c'est un mystère. C'est en même temps une revanche extraordinaire de la littérature sur la connerie et la violence.
Oui. Oui. Ce qui est fort aussi, c'est que Frédéric Becbédé, vous serez la semaine prochaine, les 11 et 12 juin, au Bataclan. Oui. On est dans cette ouverture post-Covid, post-traumatique, une fois de plus, cette salle de spectacle qui renaît. Et vous serez sur scène, Frédéric Becbédé, une manière de fêter aussi vos 30 ans de publication. Oui. C'est-à-dire que vous allez offrir des lectures au public.
Oui.
Et vous
fait.
Êtes accompagné par
J'ai
la
accompagné
musique.
Par DJ Pone, oui. un très grand DJ qui donc va passer des sons, des musiques entre mes lectures de textes. Et c'est un immense honneur d'être au Bataclan, bien sûr, pour la réouverture après ces 16 mois de crise sanitaire. C'est un symbole extrêmement fort. Et pour moi, c'est un lieu martyr du rock'n'roll avant tout. Et donc, il faut absolument être le plus vivant possible. Et voilà, et être libre dans cet endroit sacré.
Vous avez une émotion, une appréhension particulière quand même pour cette
première du 11 juin, bien sûr,
contexte.
Non, mais c'est
terrible.
C'est vrai qu'il y a une jauge à 65%, donc ça va pas être complètement plein. Mm-hmm. C'est une expérience extraordinaire à vivre, de pouvoir comme ça donner des extraits de tous mes romans qui sont choisis en fonction un peu de ce qu'on vient de traverser.
Un florilège. Est-ce que vous allez essayer, comme Yasmina Reza, qui est en bonne place aussi dans cette bibliothèque, d'introduire du léger dans le tragique, dans cette salle où l'horreur s'est produite?
Oui, bien sûr. Ah oui, c'est essentiel, ça, je crois, pour le coup. Ben, vous voyez, un mot qu'on a beaucoup entendu, essentiel ou non essentiel, ça a été un combat et une dispute qui va continuer, je pense. Mais oui, bien sûr, introduire de la légèreté dans le tragique, ça résume peut-être tout ce que j'ai essayé de faire depuis 30 ans que je publie des livres.
C'est vrai, Frédéric Becbédé. C'est pour ça qu'on a beaucoup de plaisir à vous lire et à vous recevoir ce soir sur Europe 1. Alors, je ne vais pas déflorer tous ceux que vous citez dans ce livre-là, mais j'aime beaucoup les mots que vous employez à l'égard de Sylvain Tesson, dont vous vous méfiez au début, parce que, dites-vous, il nous confrontait à notre paresse, notre immobilité, notre frilosité. Il est devenu un frère. Vraiment, Sylvain Tesson.
Ah, c'est quelqu'un que, oui, on s'aime beaucoup. Enfin, on s'écrit souvent et je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment mon contraire absolu, quoi. Le type qui vit des aventures insensées à dos de yak en Sibérie et moi qui dont la seule exploit c'était de boire des vodkas dans des boîtes de nuit.
Vous avez ça en commun, la vodka.
Mais non, maintenant Sylvain ne peut plus boire du tout, plus une goutte d'alcool.
C'est vrai, vous l'expliquez.
Et donc c'est assez pénible quand on se voit parce que moi je bois du vin et je sens bien qu'il souffre d'une jalousie intense. Mais non, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est admirable dans la littérature, c'est justement que des gens s'y opposer, puissent se comprendre, se parler. Et franchement, ce qui se passe maintenant avec la réouverture des bars, des restaurants, des terrasses, des théâtres et des cinémas et tout ça, c'est pas seulement des endroits pour boire, manger, c'est surtout des lieux de discussion. Et c'est ça qui nous a le plus manqué. C'est l'intelligence, c'est le partage. Et je crois que la principale victime de cette pandémie, ça pourrait être la démocratie, si on ne fait pas gaffe à ça. Parce que quand on se voit plus, qu'on se touche plus, eh ben, en fait, on devient bête et violent.
Mmh. Eh bien, merci de nous proposer le contraire avec ces ouvrages, notamment qui nous guident. Votre spectacle, vos textes que vous donnerez sur la scène du Bataclan, vendredi 11 juin, samedi 12 juin, donc la semaine prochaine. Le DJ set littéraire Frédéric Becbédé. Voilà. Et puis merci pour ces mots et ces encouragements à lire.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt Frédéric.
Europe Soir Weekend.
Et à tout de suite à Roland-Garros pour notre service Pioline jusqu'à 20h.
Cédric Pioline,
Wendy Bouchard,
Roland-Garros 2021,
Europe 1, radio officielle.
J'adore jouer au tennis, on verra encore combien de temps, mais c'était cool ici à Paris jusque-là.
Ouais, jusque-là, on verra pour combien de temps. Eh bien, ces mots de Roger Federer cette nuit étaient prémonitoires, car le Suisse a déclaré forfait à la veille de son 8e de finale. Bonsoir Cédric Pioline.
Bonsoir Wendy.
Merci de nous retrouver une nouvelle fois pour cette quinzaine. Vous êtes avec nous. Il y a beaucoup de choses surprenantes à dire et ça va nous engager aussi dans cette réflexion jusqu'à 20h. Bonsoir Corinne Boulot.
Bonsoir Wendy.
Notre spécialiste tennis dans ce studio de Roland-Garros face au court Philippe Châtrier et Johanna Chabas qui va nous faire vivre dans un instant. Bonsoir Johanna.
Bonsoir.
Les coulisses de Roland-Garros. Alors revenons sur cette annonce qui a fait trembler Roland-Garros en fin d'après-midi. Roger Federer qui quitte le tournoi. C'est par communiqué qu'il annonce son forfait. C'est tombé en fin d'après-midi.
Oui, alors nous y attendions un peu à l'issue de sa victoire dans la douleur. Cette nuit, Roger Federer avait laissé entendre lors de sa conférence de presse d'après-match au cœur de cette nuit de Roland-Garros qu'il envisageait de ne pas pousser plus loin l'aventure. Le Suisse s'interrogeait sur sa capacité à tenir physiquement. Il ne souhaitait pas prendre de risques avant son objectif majeur, le tournoi de Wimbledon, qui commencera à la fin du mois. Roger Federer a donc eu des enseignements avec ce bras de fer de 3h30. Hier, il l'a laissé entendre dans un communiqué en fin d'après-midi. Il explique qu'après deux opérations du genou et plus d'un an de rééducation, il doit écouter son corps et ne pas aller trop vite dans le retour à la compétition. Il se dit ravi d'avoir gagné 3 matchs ici et il termine son communiqué sur cette formule. Il n'y a pas de meilleur sentiment que d'être de retour sur le terrain. Alors, je viens de demander au directeur du tournoi, bien évidemment, désolé du retrait de Roger Federer, et c'est donc Guy Forget, s'il lui trouvait des excuses. On l'écoute, Guy Forget.
Je pense qu'il doit avoir des petits signes aujourd'hui de fatigue ou d'inflammation. Il est toujours très élégant par rapport à ses adversaires, ne donne aucune information, mais il va sur le terrain hier soir dans un stade vide face à un adversaire qui est dangereux, contre qui il avait tout à perdre, et alors qu'il était par moments malmené, il va au bout du match, il s'impose, donc je ne crois pas que aujourd'hui il craignait une éventuelle défaite face à Berrettini, non. Aujourd'hui, bah forcément, il doit faire attention à son capital santé. Je le répète, je pense qu'il devait être un petit peu touché quand même. Probablement pas, il ne se sentait pas de retourner faire 5-7 face à un bombardier qui est Berrettini, qui s'il va avoir une chance de gagner. Je pense qu'il l'avait. Il aurait fallu qu'il soit 100% physiquement. Il me semble que ça ne devait pas être le cas aujourd'hui.
L'analyse de Guy Forget, voilà, c'est fini. Cédric Pioline, Federer à Roland-Garros, s'il n'y en aura pas en 2021. Elle vous a étonné quand même, sa décision aussi?
Ce qui m'a, oui, c'est un petit peu étonnant, même si, comme l'a dit Corinne, il avait quelque part préparé le terrain lors de sa conférence de presse d'hier soir. Maintenant, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'il l'ait fait aujourd'hui, en fait. Donc son jour de repos.
Si rapidement.
Puisque en fait, il aurait dû jouer demain
oui.
Contre Berrettini. Donc ça laisse quand même supposer qu'il a dû se réveiller. Alors soit il a senti quelque chose pendant le match, ou alors il s'est réveillé avec un, comme il l'a dit, hein, tout simplement, 40 ans. Enfin ça, il ne l'a pas dit.
On peut le ressentir pour lui.
Deux opérations au genou en un an avec de la récupération et de la rééducation. Donc probablement, oui, qu'il y avait quelque chose, une petite alerte et qu'ils n'ont pas voulu lui prendre de risques.
Corinne.
Alors forcément, Wendy, la nouvelle s'est ébruitée hein, dans les allées de Roland-Garros. Johanna Chabas est allée à la rencontre de spectateurs très déçus, évidemment, d'apprendre le forfait de Roger Federer. Je vous propose de les écouter.
Je suis un peu triste parce que je pense qu'il aura pu faire un bon Roland-Garros et d'abandonner comme ça après une victoire. Je trouve ça un peu dommage. J'aurais presque préféré qu'il joue pas du tout, plutôt que voilà, il se lance et qu'au final il arrête juste parce que le match a un petit peu duré.
C'est triste quoi, surtout qu'il soit parti comme ça sans que le public puisse le voir hier. Le fait qu'il faisait sûrement son dernier Roland-Garros, c'est un peu triste.
Je comprends, à l'âge qu'il a, il voulait surtout retrouver du rythme et il veut pas compromettre sa saison sur gazon. Et Wimbledon, c'est son objectif prioritaire. Je pense que c'est le seul où il a encore une chance effectivement de gagner. Bon, malheureusement, ça s'arrête un peu brutalement.
Ouais, ces admirateurs d'autant plus tristes, Cédric Pioline, qu'il faut voir Roger Federer jouer. C'est une bête, c'est un phénomène, littéralement.
C'est un félin, même, sur félin, le court. Ouais. C'est vrai que c'est assez impressionnant, même si... En le regardant jouer, effectivement, il était un petit peu en reconstruction. Il n'était pas aussi aérien, aussi bien physiquement, aussi bien, aussi fluide dans ses coups. Mais c'est toujours un événement. Voilà, ça fait 20 ans qu'il est là. Il a marqué les esprits. Il a marqué tous les tournois, y compris Roland-Garros, même si c'est le tournoi du Grand Chelem où il a gagné le moins, puisqu'il n'a qu'un seul trophée ici. mais c'est toujours un événement et il a une cote popularité qui est énorme.
N'oublions pas quand même les résultats du jour. Ils ne seront pas éclipsés par Roger Federer, car vous nous en parlez, Corinne.
Oui, et bien justement, tiens, le retrait du tournoi du Suisse permet à l'Italien Matteo Berrettini, 9e mondial, de se hisser directement sans jouer en quart de finale, ce qui est un avantage considérable dans un tournoi du Grand Chelem. Ce sera pour affronter Djokovic ou le jeune Italien Musetti, qui eux vont jouer demain. Donc on connaîtra son adversaire à ce moment-là. Il y aura un premier quart de finale aux allures de future finale dans les prochaines années. En tout cas, c'est ce que je pense. On verra ce que vous en pensez. Mais entre le grec Stefanos Tsitsipas, demi-finaliste déjà l'an passé, et le numéro 2 mondial, le russe Daniil Medvedev, qui ne semble plus du tout allergique à la terre battue. On l'écoute, Daniil Medvedev.
Bah là, je sentais à 5 partout, il y avait une balle de break où je voulais juste mettre la balle dedans et dire que peut-être il l'a raté. Il a mis un coup fou sur la ligne complètement, qui peut changer le match. Donc à une égalité, je me dis ok, il faut mettre la folie aussi, et les deux coups droits que j'ai réussi, ils étaient monstrueux, c'était vraiment incroyable, incroyable.
Ouais, il est bien, Daniil Medvedev. Ouais. Il est bien dans son tournoi. Et ce quart de finale, c'est l'affiche de la demi-finale de l'Open d'Australie, là, en janvier dernier.
D'accord.
Dans le tableau féminin, une autre légende, a quitté Roland Garros. Mais là, sur le terrain, c'est Serena Williams, donc, qui a été éliminée en huitième de finale par la Russe Rybakina, qui sera opposée à une autre Russe, Pavlyuchenkova. Et le dernier quart de finale du tableau féminin opposera deux joueuses qui n'ont jamais jusqu'à présent disputé de quart de finale en Grand Chelem. Eh bien, ça sera le cas après-demain entre l'Espagnole Paola Badoza et la Slovène Zidanec.
Vous savez tout. Corinne Boulou, Cédric Pioline et Johanna Chabas reviennent dans un instant sur Europe 1. La deuxième manche de Service Pioline.
Service Pioline sur Europe 1. Votre rendez-vous Roland-Garros pour Wendy Bouchard.
Avec notre consultant Cédric Pioline, avec Corinne Boulou, spécialiste tennis pour Europe 1, entre autres, et les insolites de Johanna Chabas dans un instant. La question pour la gratter à Cédric, et puis cette info insolite pour commencer, Corinne Boulou.
Eh bien, saviez-vous, Wendy, que Serena Williams est arrivée en 2018 sur le court avec une cape et une tenue noire et blanc qui délivrait un message? On pouvait y lire ces mots: mère, championne, reine et déesse.
Tout imprimé, simplement.
Oui, tout cela imprimé sur l'ensemble de la tenue. Oui, voilà. C'est du Serena Williams qui adore les belles tenues. Et donc, elle avait sorti sa plus grande cape avec tous ces mots. Et c'était un clin d'œil aussi à sa combinaison intégrale qui, l'année précédente, avait provoqué une polémique. La direction du tournoi avait alors envisagé de mettre en place un code vestimentaire. Serena Williams avait alors expliqué que sa tenue avait pour objectif simplement de l'aider à lutter contre des problèmes de circulation liés à son accouchement difficile. Cette tenue ne sera plus à accepter. Il faut respecter le jeu et l'endroit, avait alors répondu le président de la FFT de l'époque. Réponse du tac au tac de l'équipementier de l'américaine: vous pouvez retirer son costume à une super héroïne, mais vous ne pourrez jamais lui retirer ses super pouvoirs. Fin de citation. Et cette année, eh bien, sur les chaussures de Serena, il y avait inscrit: je ne m'arrêterai jamais.
Bien. Bon, en tout cas, c'est l'importance de la tenue vestimentaire qui nous réunit là pour cette info insolite. Le blanc est obligatoire à Wimbledon, Cédric Pioline, pas sur les autres tournois. Vous préférez quoi, au fond? Cette fantaisie?
Je suis partagé. En vieillissant, je trouve un petit côté old school.
Oui.
Et la tradition, ça a quand même du bon. Je crois que après colorer les tenues, enfin un peu plus de fantaisie, pourquoi pas. Mais dans certaines limites, parfois, il y a eu, et pas forcément sur la tenue de Serena.
Le short d'Agassi, ça vous plaisait, ça, Cédric?
Moi, j'étais pas très fan.
Ouais.
Non. Et puis la tenue, il y a eu une tenue zèbre aussi là. Il y a pas longtemps, là. C'était pas.
Non, restons concentrés sur la balle. Truc. C'est ça. Hein. Merci, Cédric. Alors, c'est l'œil de Johanna Chabas qui est avec nous chaque soir. Bonsoir Johanna.
Bonsoir.
C'est la première fois que vous êtes à Roland-Garros et vous nous faites découvrir les coulisses avec une curiosité dans les allées. C'est un mur où sont inscrits tous les résultats de la journée et c'est une artiste qui s'en charge.
Oui, c'est ça. C'est Virginie, peintre en lettres, qui tous les jours doit se rendre devant un énorme tableau vert installé dans l'allée principale. Elle doit écrire à la main le nom de tous les joueurs et joueuses, 256 noms quand même, puis les scores de chaque match et ceux du début du tournoi jusqu'à la finale homme dimanche prochain. Elle rédige tout minutieusement avec un feutre blanc. Elle a choisi une écriture assez simple, en bâton, pour qu'elle soit lisible de tous. Et Virginie est très, très perfectionniste.
Je m'applique, donc les personnes disent « Oh là là, mais on a l'impression que c'est fait par ordinateur, que ça a été collé, on ne se rend pas compte que c'est quelqu'un qui l'a fait à la main. » Pour moi, ce n'est pas fastidieux. Je dirais même que je ne suis pas vraiment satisfaite. Je me dis « Oh là là, ce S, j'aurais dû le faire comme ci, comme ça. » Enfin, je vois tous les défauts. Mais c'est vrai, quand on regarde dans l'ensemble, évidemment, c'est quand même régulier et c'est propre.
Et Virginie, elle fait ça depuis 23 ans. Alors je me suis dit que forcément, elle doit être passionnée par Roland-Garros, mais pas du tout. D'ailleurs, elle n'aime pas vraiment le tennis.
Ah bon. J'aime bien jouer au tennis, ça peut m'amuser, mais je ne suis pas du tout ce qui se passe dans ce milieu-là. Je suis complètement larguée par rapport à ça.
Iconoclaste. En tout cas, à l'heure du digital, ça pourrait paraître un peu archaïque, anachronique.
Oui, tous les matchs et les scores peuvent être retrouvés sur Internet, sur un portable. Donc, a priori, il n'y a pas besoin que quelqu'un écrive tout ça
c'est
à la
trace,
main.
Ouais.
C'est ça. Mais en fait, ça attire énormément de monde. Il y a toujours une foule devant. Selon Virginie, c'est presque devenu une attraction à part entière de Roland-Garros.
Parfois, il y a des personnes qui me sautent au cou, qui m'embrassent parce que je viens d'écrire Nadal et c'est la fête. Il y a une tension joyeuse, particulièrement cette année. Là, je sens que c'est la fête.
Puis il y a un autre objectif derrière ces tableaux. Chaque année, après le tournoi, cette fresque est décrochée et conservée dans les archives pour garder des traces des différents tableaux de match dans l'histoire.
Ah, bah, je vais vous poser la question, Cédric. Les tableaux de vos tournois, ils ont une importance particulière encore ? Vous gardez cette trace ?
Oui, pas dans mon salon.
Ouais. Demi-finaliste 98, vous l'avez celui-là.
Et oui, j'ai des choses, mais voyez, on parlait de tradition.
Oui.
Voilà, ça, c'est bien.
Enfin, ah, moi
j'aime bien,
aussi,
j'aime bien, j'aime bien.
J'aime bien. Aussi. À la craie, très, de manière très jolie, très arrondie.
Il y a des métiers qu'on découvre.
Bah, merci, c'est Joanne. Bon. Merci, Joanna Chabas. Allez, question piège à Cédric Pioline qui sera à la relance. On vous écoute, Corinne Boulou.
Alors, cette question est la suivante. Est-ce manquer de respect à un tournoi du standing de Roland-Garros que de déclarer forfait en plein tournoi? C'est vrai que la décision de Roger Federer, on revient évidemment sur lui, de quitter le tournoi après 3 matchs, peut surprendre. C'est la première fois qu'il déclare forfait en cours de tournoi d'un grand chelem, la 5e fois de sa carrière. Alors, c'est sûr aussi qu'il n'a pas pris de plaisir vraiment hier à jouer dans un stade vide, lui qui dispute les derniers tournois de sa carrière à bientôt 40 ans. Alors oui, Roger Federer quitte Roland-Garros sur une victoire, mais pas avec la coupe, comme en 2009, année de son seul titre, tristounet pour ses nombreux supporters, comme on l'a entendu il y a quelques minutes.
Alors, manque de respect pour vous, Cédric Pioline ?
Alors, je vais commencer par vous dire que déjà, elle gratte bien cette question.
Oui.
Merci, Corinne.
Bien joué.
Je ne l'avais pas dit, en plus.
Non, mais je pense que comme je l'ai dit précédemment, vraiment avec un genou qui souffre, qui a souffert de ses efforts et notamment de son match assez long, gonflé. Bon, c'est assez logique qu'il prenne pas de risque parce que une nouvelle blessure mettrait probablement un terme à sa carrière puisqu'il va avoir 40 ans cette année. Si par contre il a pris Roland Garros comme une forme de préparation pour Wimbledon, je dirais que oui, c'est pas très cool, quoi, pour le tournoi, nous sommes ici à Roland-Garros, un tournoi du Grand Chelem. Donc voilà. Après, je vais pas répondre pour lui. Je ne sais pas. Il y a que lui qui sait si son genou est douloureux ou pas. Mais j'ai tendance à penser que oui.
Bon, je vous mettrai à l'aise parce que vous y reviendrez de toute façon autour de Lionel Rousseau dans quelques instants. C'était une bonne répétition. Cédric Pioline, Corinne Boulou, Joanna Chabas pour vous informer. Merci. On vous retrouve demain, même lieu, même heure. À tout de suite pour l'info.